Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Nous sommes en juillet 2013 et c'est l'épisode 114, le premier épisode dans la nouvelle maison, le premier épisode sur frenchspin.com puisque NoWatch malheureusement a arrêté ses serveurs il y a quelques jours de ça. Il n'empêche, nous sommes toujours là et les autres podcasteurs sont toujours là aussi. On vous en parlera peut-être un petit peu plus à la fin de cet épisode. Mais pour le moment, on a un épisode du Rendez-vous Tech à faire. Vous le savez, le Rendez-vous Tech, c'est le podcast bimensuel où on vous parle technologie, internet et gadgets. On étudie savamment et intelligemment et patiemment toute l'actualité tech qui se produit pendant 2 semaines. Et puis, on vous la compresse, on vous la résume d'une manière extrêmement facile et agréable à comprendre. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec la conférence Microsoft Build, quelques suites de l'affaire Prism qui a encore continué à faire parler, et puis plein de petites choses intéressantes qui se passent au gouvernement dont il sera intéressant de discuter. Justement, pour discuter de tout ça, j'ai deux podcasteurs, je ne sais pas comment dire les choses de manière totalement respectueuse, j'allais dire des dinosaures du podcast.
mais si je commence mal.
Mais hein. C'est vrai. Alors, avant tout, vous avez entendu cette délicieuse voix accentuée de Yann qui fait un petit retour, un petit passage par le Rendez-vous Tech après, je sais pas, des 6 mois, 9 mois d'absence.
Ça fait vachement longtemps et ça me fait vraiment tout bizarre là. Je suis limite presque intimidé d'être avec vous, mais ouais, ça me fait vachement plaisir de faire ce petit épisode. Là, on a pu se débloquer quelques petites heures pour cet enregistrement.
Attends une seconde, Yann. Qu'est-ce que j'ai entendu? T'as dit de faire ce petit épisode, là. Tu commences à avoir l'accent canadien, c'est ça?
Mon Dieu, je suis trahi. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Hein.
Ça va faire bizarre entre la Guadeloupe et le Canada. On va plus te reconnaître.
Mais je m'en rends même pas compte. Tu sais, c'est un peu comme quand j'ai passé quelques années à Paris et que j'avais des Antillais qui arrivaient à Paris, qui me reprenaient sur mon accent parisien. J'ai l'impression que la même chose se passe au Québec. D'accord. Mais je vais faire attention que ça ne se reproduise pas.
Non, mais on adore les Québécois, justement. C'est poétique, c'est magnifique. Et l'autre voix que vous avez entendu, c'est Cédric Bonnet, qui lui aussi est un habitué de l'émission, même si ça faisait quelque temps qu'il n'était pas venu.
Eh oui.
Comment vas-tu, Cédric?
Et chaudement. Ça
chaudement.
Va.
Chaudement parce que t'es chaud pour parler de Microsoft ou
Oui, et puis aussi parce qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui.
D'accord,
ça change.
Okay. C'est donc très littéralement, tu as chaud.
Voilà,
as chaudement. D'accord, ok. Bon, en tout cas, ça me fait très plaisir de vous avoir tous les deux et on va pouvoir se lancer dans le programme de l'émission. Puisque le premier sujet est un sujet qui, à mon avis, devrait vous plaire, vous qui êtes des fervents adeptes et défenseurs de Microsoft, on va parler de la conférence Microsoft Build, qui Build en anglais B-U-I-L-D, qui veut dire construire. Donc c'est la conférence pour développeurs de Microsoft. Tous les grandes sociétés en ont régulièrement. On a eu droit à Google I.O. il y a quelques semaines, la WWDC d'Apple il y a 2 semaines, et maintenant donc Microsoft. Et généralement, ce type de conférence est l'occasion pour les constructeurs et les développeurs d'annoncer des nouveautés. Alors en l'occurrence, il y a eu un gros morceau qui était l'annonce et le lancement de la pré-version de Windows 8.1. Est-ce que l'un de vous a suivi suffisamment la chose pour pouvoir nous parler de Windows 8.1 ou pas?
J'ai regardé rapidement. Je dois t'avouer que j'ai pas regardé la conférence en live.
Moi non plus, je suis.
Donc voilà. Même si j'avais regardé celle de l'an dernier, mais là j'étais un petit peu bousculé. Il y a quand même certaines choses qui étaient intéressantes, mais en globalité, on va dire que c'était surtout j'ai vraiment l'impression que c'était une conférence pour adresser les plus fortes critiques qu'il y a eu au lancement de Windows 8.
Ouais, c'était une conférence pour rassurer.
Ouais, voilà, exactement. Donc on sait, hein, au lancement de Windows 8, que une des grosses choses que reprochaient les consommateurs, c'était l'absence du bouton démarrer qui avait disparu. Et bon, j'ai toujours trouvé ça un petit peu ridicule comme... alors là, tu vas nous ressortir qu'on est fanboy, etc. Mais en l'occurrence, j'avais trouvé l'argument un petit peu stupide puisque c'était toute la philosophie du menu démarrer qui avait changé. Mais ils l'ont remis avec ce Windows 8.1. Donc, on a à nouveau un petit bouton démarrer en bas. De nouvelles options de personnalisation. On peut changer les couleurs. On peut créer des groupes dans le menu démarrer, dans le menu métro, là.
On pouvait déjà créer les groupes. Simplement. Ouais, maintenant, la nouveauté,
mais on peut les nommer, en fait.
Ben, on pouvait déjà aussi.
On pouvait déjà les nommer. Là, il y a une présentation un petit peu différente.
Ouais, voilà. Et le fait qu'on puisse déplacer différentes, enfin sélectionner plusieurs icônes et les déplacer en même temps, ça c'est nouveau.
Ouais.
C'est moins rigide en fait, voilà.
Mais tu sais, détrompe-toi, Yann. Moi, j'ai souvent défendu dans l'émission Windows 8 sur lequel je suis depuis quelques semaines maintenant. Et je suis chez mon ordinateur principal, je l'avais déjà sur le MacBook en dual boot, mais c'est franchement, j'en ai déjà parlé dans l'émission, donc je vais pas refaire le chapitre, mais moi je trouvais ces critiques assez artificielles, et à vrai dire, le plus surprenant dans Windows 8.1, c'est que même les corrections déficiences supposées, il faut pas nier que il y a des gens qui sont pas du tout contents de Windows 8, hein, et maintenant sans porter de jugement de valeur, il y a des gens qui sont vraiment pas contents, mais ces corrections n'en sont pas finalement, parce que l'ajout du bouton démarrer,
c'est plus
en réalité, voilà, c'est juste cosmétique, c'est juste que c'est un bouton qui n'affiche pas le menu démarrer lui-même, mais qui affiche l'écran démarrer qui existe depuis Windows 8 depuis longtemps.
Exactement.
Cédric, toi vas-y.
D'ailleurs, quand on regarde un petit peu, parce que moi j'aime beaucoup regarder les commentaires des gens, les réactions des gens sur les vidéos YouTube, et en fait, le commentaire
était un peu maso quand même.
Mais non, mais en fait, c'est le feedback qui est important, et en fait, tu te rends compte que les gens ils disent, mais non, mais en fait, c'est pas le bouton démarrer que je voulais, c'était l'ancien menu démarrer que je voulais. Je veux pas ce truc plein d'écran et tout. Et ça, ils l'auront pas, quoi, parce que c'est effectivement la philosophie qui a changé. On est passé à autre chose. Mais et c'est pour ça que voilà, ce bouton démarrer, je le trouve un petit peu ridicule, quoi, puisque c'est pas vraiment ce que les gens voulaient.
Ouais. Bon, c'est sûr que c'est très cosmétique. On va peut-être pas passer toute l'émission sur le menu démarrer, le bouton démarrer. C'est vrai que c'est le point d'accroche principal, mais il y a quand même d'autres choses dans Windows 8.1. Il y a d'autres choses que t'as retenues, Cédric?
Moi, j'ai retenu quand même pas mal de choses sur Windows 8. En particulier, la refonte du store.
Ouais.
Parce que je trouve que l'un des points faibles du Windows Store, c'est vraiment que l'interface, en fait, l'interface se prête pas à la découverte d'applications. Je sais pas si vous avez vu, hein, mais c'est classé par catégorie. Il y a deux ou trois applications mises en avant. Ça s'arrête là. Faut chercher. Il y a pas tellement de...
Pour tout dire, moi, je trouve le store de Windows 8 carrément mauvais, carrément
très
mauvais.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contenu vraiment éditorialisé, il y a quelques mises en avant comme ça, mais par exemple, ils ont créé des catégories, tu vois, une catégorie sport, par exemple, tu vois, ou actualité, ou je sais plus comment, actualité, dans laquelle, en fait, tout est un peu mélangé, quoi. Ouais. Et si au moins il y avait quelqu'un chez eux qui, tu vois, faisait l'effort, un peu comme sur Windows Phone, parce que sur Windows Phone, ils le font. Éditorialiser un peu le store, comme le fait Apple d'ailleurs, hein, tu vois, les applications de la rentrée, les applications pour organiser sa vie et ce genre de trucs, tu vois, ils le font vraiment, et c'est pas juste une catégorie, il y a des mises en avant, même si c'est deux trois phrases écrites, c'est pas grave, ça donne l'impression qu'il y a quelqu'un derrière, et puis surtout on découvre des choses. Là c'est un peu le fourre-tout global avec les nouveautés, le classement il est plus ou moins inexistant, et surtout on comprend pas trop comment ça fonctionne.
Et puis il y a pas énormément d'applications sur.
Il y en a 100 000.
Ouais, 100 000.
Alors on est d'accord. C'est les annonces.
Non mais justement, ça c'est un truc qui est important parce que je crois que c'était dans les notes de l'émission précédente, dans les commentaires de l'émission précédente, quelqu'un m'a dit, je suis désolé, j'ai oublié ton nom, cher auditeur, qu'il y a en fait par défaut uniquement les applications en français qui sont présentées sur le store. Oui. Et pour les utilisateurs de Windows 8, une petite astuce très importante, c'est, je vais essayer de retrouver le nom de la
alors,
personne.
En fait, c'est pas qu'elles sont en français, hein. C'est celles qui sont disponibles pour ta région.
C'est ça.
Elles sont régionalisées, parce que tu as quand même des applis en anglais, hein, attention.
D'accord, mais en l'occurrence, on peut aller dans les... Donc, on a la Charm Bar, la barre de charme. On va dans les paramètres, quand on est dans le Windows Store, les préférences, et dans les préférences, on peut supprimer l'option « Simplifier la recherche d'applications dans mes langues préférées ». Donc, on peut simplement avoir plus d'applications par ce biais. Et c'est vrai que c'est un petit peu moins limité quand on active cette option. Mais bon, donc la refonte, ça sera quoi exactement?
En fait, justement, c'est tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que des mises en avant qui sont éditorialisées, donc enfin, il y a un but, tu vois. Genre, là, c'est les départs en vacances, on va te mettre en avant tous les guides pour tes vacances, tu vois, enfin, des trucs pour, par exemple, je sais pas moi, compter tes dépenses, ton carburant, ou j'en sais rien, tu vois. Et donc voilà, ils ont refait ça, ils ont aussi refait l'interface avec du contenu en relation avec les applications que tu as déjà téléchargées. Ça rappelle un peu le Genius d'Apple.
Oui.
Où justement, voilà, en fonction de tes centres d'intérêt, on va te mettre en avant des applications pour toi. Ça aussi, c'était un truc qui était inexistant. Et à la limite, ils proposaient même pas, tu vois, des applications que les autres utilisateurs avaient téléchargées en relation avec l'appli que tu es en train de regarder, tu vois. Ça va y être. Donc, c'est pas mal quand même.
On a vraiment l'impression que, entre parenthèses, c'est Etolian qui m'avait donné cette astuce, donc merci à lui dans les commentaires de l'émission précédente. C'est vrai que on a un peu l'impression que le store tel qu'il est aujourd'hui dans Windows 8 avait été fait un petit peu à la va-vite pour que les applications, si tu connais une application, tu peux la rechercher, tu peux la retrouver, tu peux la télécharger facilement. Donc il y a quand même cet aspect de la fonctionnalité, l'aspect de distribution des applications qui fonctionne très bien, mais l'aspect de curation du store du magasin était pas là. Et bon, avec Windows 8.1, on n'est même pas à un an de la sortie de Windows 8, on est à quelques mois seulement. On imagine que le point 1 sortira un an après le 8
en octobre,
normal, à peu près, voilà.
Je crois que c'est la date qu'ils ont annoncée même. Hein.
Oui, ils ont dit quelques mois. Je ne sais pas s'ils ont annoncé.
Oui, mais non, ça devrait être octobre pour relancer les ventes.
C'est ça. Donc bon, il y a ces deux aspects qui sont importants, plus de personnalisation sur l'écran de veille, pas l'écran de veille, l'écran bloqué, l'écran verrouillé. On peut démarrer directement sur le desktop.
C'est ça.
Ce qui est encore une fois une des demandes des gens qui se trouvaient un petit peu enfermés dans l'interface moderne.
L'intégration de Skype aussi à la place du logiciel de messagerie, de message comme ils l'ont appelé.
Ouais.
Donc là, c'est Skype qui remplace directement ce logiciel-là. Donc,
Je trouve que leur intégration de Skype, elle est un petit peu timide. C'est-à-dire, moi, je m'attendais
Oh là, dans 8.1, c'est quand même c'est de base. Hein. C'est-à-dire que c'est ton compte Microsoft qui est ton compte Skype aussi. Enfin, si tu as fait la fusion des deux. Et à partir du moment où tu te logues sur ta machine avec ce compte-là, Skype est automatiquement configuré pour que tu puisses discuter avec tes amis via le logiciel qui avant s'appelait Message. Donc Skype le remplace complètement.
Oui, donc c'est une intégration là avec 8.1 assez poussée quand même.
J'imaginais quand même quelque chose de... C'est-à-dire que quand il y a un peu plus d'un an, on a appris que Microsoft rachetait Skype, globalement, ce qu'ils font maintenant, c'est ce qu'on s'attendait à ce qu'ils fassent, en fait. C'est vraiment le truc bête et méchant. Voilà, on a racheté Skype.
En même temps, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent?
On est vraiment dans une époque où il faut innover. Et j'espérais qu'ils fassent quelque chose d'un petit peu plus fou, quoi. Et en fait,
ils l'ont fait sur l'interface.
Moi, je pense pas que c'est sur l'intégration de Skype qu'ils allaient innover. C'est surtout ils ont suffisamment d'innovation et de controverses avec l'interface moderne pour.
Et il y a aussi un dernier point, moi, qui je trouve est très important, c'est Xbox Music, qui a été dévoilé, une nouvelle version qui a été dévoilée. D'ailleurs, maintenant, il est disponible aussi sur le web depuis aujourd'hui. Ils ont refait le logiciel et pour l'utiliser tous les jours, c'était une catastrophe. une catastrophe pas tellement
Pour préciser aux gens qui connaissent peut-être pas, Xbox Music, c'est en fait le service Spotify de Microsoft.
Et c'est ça, c'est exactement ça. Vous pouvez aussi télécharger vos morceaux hors ligne et tout ça. Alors, c'était d'une clarté comment dire
le contraire de limpide.
Ouais, c'est ça, d'une clarté complètement opaque.
Voilà.
C'est pas compliqué. Il y a des morceaux de musique que j'avais téléchargés sur ma tablette Surface et qui du jour au lendemain ont disparu. Alors je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais les retélécharger. Donc il m'affichait qu'ils étaient téléchargés, puis je prends le train et j'avais plus de musique. Et je me suis dit, mais attends, c'est une blague, il m'a dit qu'il les avait téléchargés. Enfin, c'était franchement, c'est à s'y perdre.
D'accord. Et donc là, ça va être.
C'était corrigé. Assez mal fait. Et puis l'interface générale était faite plus, tu vois, pour. À la limite, c'était une interface presque télé. Dans le sens où tout était très gros, très. Alors, c'était là, ou alors des gens qui n'ont pas des doigts, mais qui ont des. Je sais pas moi.
Saucisses.
Des saucisses ou des genoux, quoi, à la place des. à la place des doigts. Ou des coudes, tu vois, voilà, c'est vraiment ça. C'était énorme. Et du coup, je trouvais qu'on perdait vachement en. Sur le. Enfin, en espace d'affichage, sur le logiciel de musique. Je trouvais ça un peu dommage. Là, ils sont revenus sur une interface qui, pour le coup, est un grand bond en arrière. Parce qu'on se retrouve avec une barre latérale un peu à la iTunes d'antan, tu vois. Sauf qu'elle est évidemment en flat design, super plat, machin. C'est pas mal, sauf que pour le coup, je trouve qu'il y a un vrai recul en arrière, tu vois. Ça copie vachement ce qu'a fait Google avec la musique, avec Play.
D'accord.
On va dire qu'on va retrouver toutes les fonctionnalités de base qu'on attendait d'un bon lecteur de musique. Donc ça, c'est cool. Sauf que sur l'interface, ben à part reprendre juste le design plat et métro, enfin moderne UI, il faut dire, et ben en fait on a quand même une disposition et une ergonomie qui ressemble beaucoup à un logiciel classique. Alors ça va plaire à certains, mais je trouve que il y avait peut-être un juste milieu à trouver, quoi.
D'accord.
Voilà.
Bon, autre changement. Alors là, c'est important pour l'interface moderne. On va pouvoir avoir plusieurs fenêtres, plus de deux fenêtres en même temps à l'écran, plus de deux programmes en même temps à l'écran. Ça va jusqu'à quatre, si je ne m'abuse, et on peut redimensionner chaque fenêtre en même temps. Pour ceux qui utilisent l'interface moderne, ils comprendront ce dont on veut parler. C'est un changement bienvenu, un accent mis sur l'outil de recherche.
Moi, j'ai jamais compris pourquoi on ne pouvait pas en avoir trois, sachant que les applications gérer une position qui était un tiers de l'écran. Donc,
c'est un peu moins d'un tiers, je crois. Mais...
Oui, un petit peu moins. Oui, mais en gros.
Ça aurait pu.
Ouais. Ouais. Et du coup, tu peux très bien avoir trois tiers, tu vois.
C'est vrai. l'outil de recherche Bing, très développé, qui vous fera des feuilles d'explication du sujet que vous cherchez. Qui
ça, pour le coup, c'est vraiment pas mal. C'est un retard qu'ils avaient par rapport
à Google.
Même la, ouais, à Google, mais aussi la, comment il s'appelle encore ce téléphone de, qui a fait un flop monumental, qui a été racheté.
WebOS.
WebOS, voilà, qui avait un moteur de recherche assez intéressant, un peu contextuel et qui t'affichait des résultats adaptés finalement à ce que tu tapais.
En l'occurrence, c'est effectivement très malin parce que comme ce fameux bouton Start, tu cliques dessus. Si tu as le bouton Windows sur ton clavier, tu appuies dessus et à partir de là, tu commences à taper quelque chose et ça te donne accès à la recherche immédiatement. Donc, quand on est en train de discuter avec des amis, on se demande machin, il a quel âge,
au lieu de faire Windows
rallumer ton truc.
Parce que c'est la touche Q, parce que ça ressemble à une loupe en fait.
Oui.
Tu fais Windows Q et ça lance le moteur de recherche et tu tapes.
Oui. Bon,
enfin, voilà, c'était comme ça.
D'accord. Mais généralement, moi, ce que je faisais, c'est que je lançais le navigateur, je faisais la recherche sur Google, puis t'allais voir sur Wikipédia, tout ça.
Bon, maintenant, t'as Chrome lancé, tu dis OK Google, quoi.
Ouais, mais non, mais ça marche pas chez moi.
Non,
mais ça marche chez toi.
Non, ça marche pas encore.
Ben non, c'est pas encore activé. Bon.
C'est sur google.com. Sur le FR, apparemment, ça marche pas.
Ah, d'accord. Mais si, donc tu veux dire que si je vais sur google.com.
Il va te rediriger vers le FR.
Oui, mais Google offered in français. Ah merde.
Bon, voilà.
Bref. Google.com. Hop, je suis sur google.com. Ok, Google, fais un truc.
Non, ouais, non, mais il faut que t'aies activé le micro et tout ça, tu sais.
Ah bah oui, mais non, mais si je cherche, j'active le micro...
Non, mais il faut que tu autorises Chrome à utiliser ton micro et tout ça.
Bah, je veux l'autoriser, vas-y.
Mais c'est sur ton ordi, sur ton PC ?
Oui, tout à fait.
D'accord.
Bah oui, je suis toujours sur mon PC, moi, quand j'enregistre. Bah, parce que j'ai... Tu vois, il y a des gens qui pensent que je suis super fanboy d'Apple, tout ça. Je suis tout le temps sur PC, moi, et je suis tout le temps sur iOS... pardon, sur l'absus, c'est Google. paramètres. Alors, où est-ce qu'on autorise l'utilisation du micro ?
Normalement, c'est dans la. Il faut avoir fait la dernière mise à jour de Chrome et.
Ah bah, je l'ai fait, oui.
Bah voilà. Eh ben, bon, on va peut-être pas le faire pendant pas. L'émission, on le fera après si non, tu veux.
Ça me frustre. Bon, alors, autre chose sur Windows 8, il y a des nouvelles applications, tu as parlé de Xbox Music.
Pour les développeurs, quand même, il y a une nouveauté. C'est que le coût de la licence développeur, j'allais dire. Oui, de l'autorisation de publier des applications, hein, enfin, l'accès au store et tout ça. Avant, c'était 75€ à l'année. Maintenant, c'est $19. Donc, en euros, ça fera peut-être 19€, mais voilà. Du coup, ça a vachement baissé.
Oui, je suis pas certain que ça soit ça qui arrête complètement les développeurs de...
Complètement. Je suis sûr que ça les arrête pas du tout, mais ça montre
Qu'ils font des efforts.
Qu'ils font des efforts parce qu'ils sentent que ça manque d'applications.
Ouais.
Je pense que ça devrait même être gratuit pour le coup. Hein. Moi, j'ai payé 2 ans pour ce truc-là et...
Le problème du gratuit, c'est que du coup, tu ouvres un petit peu trop grand la porte. Je pense qu'il faut.
Ah, bah ouais, mais là, ils ont vraiment besoin d'ouvrir les portes.
Oui, c'est pas faux. Mais le truc, c'est que t'ouvres pas forcément la porte aux bonnes personnes. Tu te retrouves un petit peu avec les spammers. C'est vrai qu'il y a une validation. C'est vrai.
Attends, les spammers,
si jamais ton problème, c'est que la validation, c'est un problème de riche, quoi. Là, ils ont.
C'est vrai.
Donc, Flipboard, Facebook aussi qui débarque.
Ça, c'est très bien. Effectivement, Flipboard, c'est vraiment quelque chose qui va énormément me servir.
Foursquare aussi.
Foursquare un peu moins. Oui. Facebook, c'est pas mal. Bon, moi, je suis pas un grand. Oui, c'est vrai. Quoi d'autre? On va évacuer parce que là, Windows 8. Il y a d'autres petites applications. Internet Explorer 9, 11,
Bing,
pardon.
Accessible aux développeurs. Ils vont pouvoir s'amuser un petit peu à utiliser la traduction, Bing, la reconnaissance vocale et tout ça, quoi.
Mais Bing accessible aux développeurs, c'est pas mal parce que ça veut dire que Bing, qui a évidemment la recherche, mais aussi les cartes, la reconnaissance vocale, comme tu le disais, etc., va être accessible à tous les développeurs pour intégration dans leurs applications. Donc ça, c'est une bonne chose pour Microsoft. Hein. On va plus avoir seulement Google avec Google Maps qui sera disponible. Encore qu'ils sont beaucoup plus restrictifs aujourd'hui avec Google Maps. Et donc Microsoft essaye d'ouvrir les choses pour que les gens entrent dans leur écosystème.
Il manquerait plus qu'Apple l'aide Siri pour les développeurs et là.
Ne rêvons pas.
Tu rêves là.
Une dernière chose, deux dernières choses sur cette conférence Build. On a appris que une application en Modern UI pour Office n'arriverait pas avant 2014. Donc ça fait un petit peu long, mais ça arrivera à un moment. C'est vrai que ça a été décalé, on l'attendait un petit peu avant ça. Et entre parenthèses, moi j'utilise Office, la nouvelle version 2013 depuis quelques semaines. Et j'avoue que je suis très agréablement surpris, elle est très sympa. Ouais. Et il y a des trucs tout bêtes comme l'animation quand tu passes d'une cellule à l'autre qui est beaucoup plus fluide. Enfin, c'est vraiment une très très bonne version d'Office, je trouve. Ouais.
OneNote vient de sortir sur iOS et Android aujourd'hui. La nouvelle version avec un design un peu moderne.
Ouais, mais bon, c'est que OneNote, c'est pas Office. Et dernière chose qui va intéresser les plus bricoleurs d'entre vous, il y aura avec Windows 8.1 tous les drivers pour les imprimantes 3D qui seront déjà intégrés à l'OS. Ça veut dire que évidemment on connaît tous les problèmes de drivers avec les imprimantes classiques ou plutôt on les connaissait à l'époque. Aujourd'hui c'est
là,
plutôt réglé.
C'est plus le cas,
Voilà. Eh bien Microsoft va intégrer dès Windows 8.1, donc quand même un petit peu en avance sur la disponibilité, on va dire grand public des imprimantes 3D, on aura ces drivers-là disponibles directement dans Windows 8.1. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, ça continue à faire avancer cette technologie qui est vraiment intéressante et innovante de l'impression 3D, et voilà, donc ça continue dans cette direction. J'imagine que tu es fou de joie, Cédric.
Non, mais je saute au plafond.
Ça coûte combien une imprimante 3D
Tu peux en trouver à $450, $400.
À ce prix-là, c'est à monter soi-même.
Non, pas forcément. Non. Maintenant, tu en trouves.
Les MakerBot sur plan, non ?
Non. Tu en trouves maintenant chez. Comment s'appelle cette grande chaîne américaine là de boutiques.
Oui, on en avait parlé la dernière fois. C'est chez je sais plus. Enfin,
j'ai oublié.
Un des équivalents de la.
J'en avais parlé dans Geeking d'ailleurs aussi.
Oui.
Et j'ai oublié le nom. Et elle vaut $299 ou $399.
Ah oui, à ce point-là.
Oui, et ça fait du 12 cm sur 12 cm en volume.
D'accord. Je me rendais pas compte que c'était si bon marché maintenant.
Ouais, je pensais que c'était un bon
marché. Ouais, non, c'est petites imprimantes. Alors, comme tu dis, il faut la monter soi-même, mais en fait, il y a 3 ou 4 morceaux, c'est tout, hein.
Tu l'imprimes, en fait.
C'est comme, mais c'est comme, tu sais, une imprimante où tu mets le cache pour faire ceci, machin, et tout ça. Oui. Bon, là, il y a un plateau en verre, tu sais, que tu dois poser. Il y a 2-3 trucs. C'est normal, ces éléments-là, tu les glisses après.
Parce que effectivement, il y a encore une petite année quand on avait vraiment commencé à beaucoup en parler, les moins chères étaient de chez MakerBot, la société un petit peu pionnière de ce domaine, et elles étaient autour $1,000,000 et effectivement a monté elle-même. Donc ça a vraiment beaucoup baissé.
Ouais. Oui, surtout que là en plus ils sont dans une, je crois qu'elle s'appelle Cube, je sais plus quoi, il y a Cube dedans.
D'accord.
Surtout là, il en produit en masse. C'est pour ça, le process industriel a fait que les tarifs ont baissé. Et puis, elle a quand même 2-3
limitations. Il y a une section, imprimante 3D sur Amazon, etc.
Ouais, voilà. Mais il faut savoir qu'elle a quelques petites limitations puisque c'est du 12 cm sur 12 cm. Donc déjà, tu fais pas des gros objets, quoi. Donc.
Oui, bien sûr.
Voilà. Tu peux imprimer tes Lego, quoi. C'est cool.
Mais disons que ensuite,
il me manque une pièce. Hop.
Ce qui va être un petit peu bizarre, ça sera pour recharger l'imprimante. Je sais pas combien coûtent les cartouches, mais à mon avis, c'est pas donné non plus, quoi.
Ouais.
Bref, Windows 8.1 et les autres nouveautés Microsoft. C'était pas la conférence la plus folle de l'histoire.
Il y a quand même une chose que tu n'as pas dite.
Ah, bah vas-y, dis-moi.
Bah, le grand absent de cette conférence, c'était un peu Windows Phone.
Ah oui, c'est vrai. Tu vois, il est tellement absent que j'y ai même pas pensé.
Moi, j'ai suivi l'événement et je me suis demandé ce qui se passait. Parce que je l'ai suivi essentiellement pour Windows Phone. Hein, parce que bon, Windows...
Donc, t'as été content.
T'as dû être déçu.
Mais alors, grave, je me suis tapé. C'était 2 heures de conférence quasiment. Enfin, j'ai suivi même après et tout. Donc, je suis là, mais c'est pas possible. Au moins, ils vont en parler, quoi. Et en fait, ils n'en ont pas du tout parlé. Alors, je me suis dit, bon, allez, demain, parce que ça durait 2 jours, build. Je me suis dit, demain, ils vont en parler, quoi. Et en fait, non, pendant les 2 jours, ils en ont pas parlé. Mais alors, pas du tout. Enfin, si, en filigrane derrière, tu vois, genre, oui, les applications que vous faites en 2 clics, elles sont adaptées pour Windows Phone 8. Enfin, bon, voilà, le discours habituel qu'on nous sert depuis 1 an. Là, j'ai vu... Enfin, je me suis posé la question de savoir ce qui se passait, si c'était un peu, tu vois...
Est-ce qu'ils vont pas abandonner Windows Phone 8 hein,
ça, ah non, c'est... ils vont pas l'abandonner, hein, c'est pas ce que je dis, mais... Ça fait bizarre de séparer d'une conférence de développeurs, plutôt de mettre autant en avant l'OS de bureau et finalement pas l'OS mobile. Et on sait que les applications, enfin les stores d'applications, sont venus essentiellement du mobile et pas du tout parler du mobile lors d'une conférence de développeurs, c'est quand même un peu bizarre, quoi.
C'est sûr. Donc, on assiste un petit peu à un retombage du soufflet, je pense, en France, pour Windows 8 et ailleurs aussi, je pense. Mais est-ce que c'est le cas également au Canada, Yann? Enfin, dans ton entourage?
Non, dans mon entourage, les gens sont assez satisfaits de Windows 8. Il y a, je croise également beaucoup de personnes dans le métro avec vraiment le téléphone, le mobile Windows Phone.
Un Nokia.
J'étais vraiment très surpris. Ouais, les Nokia, ils ont vraiment la cote ici. Oui. Pas autant, pas dans les proportions d'un iPhone ou d'un Android.
D'un Galaxy, oui.
Mais en l'occurrence, ils sont vraiment beaucoup beaucoup plus nombreux que j'aurais pu l'imaginer.
D'accord.
Mais quelque part, je me dis que, enfin, je suis pas particulièrement surpris que Microsoft n'ait pas vraiment mis l'accent sur le téléphone, puisque au final, si jamais tu adresses un sujet directement sous l'angle Windows Phone et que tu n'as pas ce type de périphérique. Du coup, tu prêtes moins attention finalement à l'application qui sont en train de présenter, à la feature qui sont en train de présenter, puisque tu dis que finalement c'est pour un device qui t'intéresse pas. Alors que si tu le présentes de façon plus globale sur Windows 8, etc., et que tu dis au passage c'est également possible de le faire sur mobile, bah, du coup tu captes beaucoup plus de personnes, quoi. Donc
je pense qu'il y a quand même un certain, enfin. Sans aller interpréter trop, il est certain que l'absence de Windows Phone 8, pardon, pendant cette conférence est notable. Ça, c'est certain.
Bah, c'est clair. Enfin, oui. Surtout qu'en plus, il parle de Windows 8.1. On sait qu'il va y avoir une version Windows Phone 8.1, puisqu'ils partagent en plus le même cœur. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont partagées entre les deux.
Bah, peut-être qu'on aura droit à une conférence sur Windows Phone spécifiquement à la rentrée.
Ce que je me dis, c'est que là, de toute façon, Nokia va tenir une conférence dans pas longtemps pour annoncer ses nouveaux téléphones. Peut-être qu'en fait, ça va être une conférence conjointe avec Microsoft. Et qu'ils en profiteront pour annoncer les nouveautés de Windows Phone, comme ils l'avaient déjà fait pour le Lumia 920 à l'époque. Contrairement à ce que vous dites, en France, il y a Il y a de toute façon eu une grande mode de Microsoft bashing et de Windows bashing pendant très longtemps, et qui perdure hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, les Windows Phone pâtissent aussi de la mauvaise image de Windows Mobile de l'époque, hein, puisqu'il il a pris un sacré coup de vieux à l'époque de la sortie de l'iPhone et d'Android, j'en parle même pas. Si je trouve que ça pâtit encore de ça, et par contre, ça change. C'est en train de changer parce que je vois que autour de moi, par exemple, Julien, un co-animateur de Geek Inc. avec moi, avait jusqu'à présent un Galaxy Nexus et il vient d'acheter un Nokia Lumia. Parce que l'OS lui plaît, le design de l'appareil lui plaît, et il a pas envie de se prendre la tête, et le téléphone fonctionne bien, il est sous Windows, enfin tu vois.
C'est sûr, mais disons que je pense qu'il y a, autour de la sortie, et c'est normal, on parlait beaucoup de Windows Phone et il y avait énormément d'espoir qu'on plaçait dans Windows Phone comme étant une vraie alternative aux deux géants iOS et Android. Et bon, ça reste une alternative, hein, évidemment, mais disons qu'il n'a pas rempli toutes les promesses qu'on pouvait imaginer. Il est très loin derrière les deux autres. Il n'a pas réussi à s'imposer comme vrai challenger. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais très clairement, et c'est fou parce que c'est un très bon OS. Hein,
Surtout même les appareils, on ne peut pas dire que les appareils sur lesquels sont installés l'OS sont mauvais, ce n'est pas le cas, quoi, en fait.
Ça montre bien que finalement l'appareil n'est qu'une portion de l'équation. Le plus important, c'est les applications qui sont disponibles dessus. Je trouve que Microsoft, en fait, ils sont vachement timides là-dessus. Quand tu regardes, je sais pas, ils ont claqué $1 milliard pour les exclusivités Xbox One. Et ils débloquent pas ce genre de budget pour la plateforme mobile, enfin, Windows Phone. Il faut vraiment y aller avec de grosses sommes d'argent pour sécuriser des applications exclusives.
Mais ils ont essayé, comme ça, le problème. Mais oui et non, le problème, c'est que les développeurs qui veulent développer sur une plateforme existante qui soit déjà bien placée, à moins que tu leur offres effectivement des sommes absolument exorbitantes, ils vont pas venir sur Windows Phone, parce que s'ils viennent sur Windows Phone, leur application, c'est l'œuf et la poule, hein, systématiquement.
Exactement.
Mais oui, et le problème, à mon avis, n'est pas tant dans les applications elles-mêmes que dans le fait que une fois qu'un système s'est installé et une fois qu'une industrie s'est un petit peu a dépassé ce stade de l'explosion de l'innovation, pour qu'un challenger puisse vraiment s'imposer, il faut qu'il apporte quelque chose des fonctionnalités vraiment différentes qui font envie aux usagers. Et là, en l'occurrence, Microsoft avec Windows 8 a fait des choses intéressantes, mais n'a pas apporté quelque chose de suffisamment différent et de suffisamment intéressant pour que les gens se détournent de leurs habitudes et s'intéressent en plus grand nombre que ce qu'ils ont déjà fait à Windows Phone 8. Et à mon sens, c'est en ça qu'on voit une sorte de ralentissement parce que tu te souviens, Cédric, pour prendre l'exemple de l'appli du podcast Upload, dans lequel on fait reviews d'applications, des tests d'applications, il fut une époque où on avait des applications Windows Phone un petit peu tout le temps. Aujourd'hui, c'est plus autant le cas du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, notre spécialiste Cédric, c'était un petit peu ça aussi, mais je veux dire, on en parle moins de toute façon. D'ailleurs, il y a des auditeurs qui sont très mécontents du fait qu'on en parle moins.
J'ai récupéré mon 920, mais en fait, il n'a pas été réparé, donc je l'ai renvoyé.
Oui, donc ça n'aide pas.
C'est dommage.
Mais bon, tu vois, il y a quand même plus cette effervescence qu'il y avait au lancement de la plateforme et cet espoir et cette. Donc, la plateforme est là, elle existe, elle est bien, mais on n'est plus dans l'excitation du début, je pense. Enfin bref, bon, refermons cette page Microsoft parce qu'on en a quand même beaucoup parlé. On va parler rapidement de Prism qui a continué à évoluer, l'affaire de Prism et de la NSA. On en a énormément parlé à l'épisode précédent. Il y a eu des évolutions évidemment, donc je vais passer en revue les choses un petit peu rapidement et puis on va en discuter juste après. D'abord, la nouvelle la plus importante, c'est que l'État américain a déposé a accusé Snowden d'espionnage officiellement. Donc, il y a des charges déposées contre Snowden et ils ont demandé son arrestation. Entre-temps, Snowden est parti de Hong Kong.
Franchement, c'est juste à mourir de rire, quoi.
Je ne sais pas si c'est à mourir de rire.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que il accuse d'espionnage dans une affaire où en fait il dévoile
oui,
que les États-Unis
que, oui.
espionnent d'autres nations.
C'est vrai que j'ai dû lire le truc deux fois quand même.
Ouais,
avant
tu
de...
t'es demandé si c'était si Snowden c'était... qui les accusait d'espionnage à eux aux États-Unis ou si c'était l'inverse.
C'est ça, oui. Ouais, c'est, voilà. c'est un petit peu la news du Garofi ou quelque chose comme ça. Quoi. Gorafi, pardon. Donc oui, accusé d'espionnage, demandé son arrestation, etc. Entre-temps, il est parti de Hong Kong. On savait pas où il était. Il se trouve qu'il est en Russie et qu'il est dans la zone de transit de l'aéroport de Moscou et qu'il... Ah, le pauvre, il a vraiment... Et il a demandé l'asile à 15 pays différents en espérant l'obtenir, des pays évidemment qui n'ont pas de convention d'extradition avec les États-Unis.
La France
la France a des conventions très claires. Encore que, je suis pas sûr parce que aux États-Unis, la peine de mort est autorisée et la plupart des pays européens, si je ne me méprends pas, refusent d'extrader les gens. Oui, ma fiancée qui connaît tout ça me confirme. Pardon. J'ai raison. Ok. Voilà. Refuse d'extrader les gens dans des pays où ils risquent la peine de mort, puisque la peine de mort est interdite en France et dans les autres pays européens.
Ben voilà.
Donc, il pourrait venir en
place
France.
Chez toi, Patrick.
Je sais pas si le l'espionnage peut-être que ça il risque la peine de mort, mais je suis pas sûr. Bref, peu importe. Autres infos, on a eu plus d'informations sur les méthodes et les techniques de la NSA par les toujours cette présentation qui comptait une cinquantaine d'écrans dont on n'avait eu que quelques-uns. Le Guardian a continué à en donner, à en envoyer d'autres, à en diffuser d'autres. On a appris que Google voulait voulait obtenir le droit de parler de ce que demande la cour du FISA dont on parlait, donc la cour qui surveille la NSA en citant les droits du premier amendement qui est la liberté d'expression. Donc ils ont demandé au système judiciaire américain de statuer sur le fait qu'ils aient ou non le droit de parler de ces perquisitions qu'ils reçoivent, ces demandes de perquisition. Et on a une partie un petit peu plus européenne de toute cette histoire. On a appris il y a quelques jours à peine, enfin en l'occurrence c'était il y a deux jours au moment où on enregistre l'émission, que les États-Unis avaient espionné les ambassades de différents pays européens, dont la France, l'Italie et la Grèce, on ne sait pas pourquoi spécifiquement, espionner les ambassades des différents pays européens très 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 agressivement. Il y avait des micros dans les ambassades. Ils avaient évidemment utilisé les connexions internet, etc., etc. Donc, et évidemment, les pays en question ne sont pas contents du tout, du tout.
Ah oui, nous, il a dit, hein, je suis pas content.
qu'est-ce que ça vous a évoqué? Est-ce que au Canada on a le même type de
Mais
de,
au Canada
de
ils sont un peu américains donc.
Moi, je parlerai pas au nom des Canadiens. J'en discutais avec des collègues de cette histoire. Déjà, on était tous les deux d'accord sur le fait que c'était il avait vraiment beaucoup de courage ce jeune
homme. Snowden, oui.
Parce que franchement, il était vraiment dans une situation. Ouais, mais il était dans une situation vraiment confortable. Enfin, il travaillait à Hawaï, il avait un salaire bien confortable et tout. Et se dire, parce qu'il savait qu'il disait adieu à tout ça, mais pour par acquis de bonne conscience de le faire, je salue ce monsieur. Après, sur le fond en tant que tel, moi je suis assez partagé en fait sur la dramaturgie de toute cette histoire, puisque d'un côté je comprends qu'on ne puisse pas, que ce soit pas logique d'espionner les gens comme ça sans leur consentement, sans leur accord.
Ah bah, mais de l'autre côté, quand tu les espionnes, tu vas pas leur demander leur avis en même temps.
Oui,
hein.
Effectivement. mais également, tu vois, c'est moi, je suis papa d'un petit garçon de 3 ans et quelque part, je serais rassuré de savoir que qu'on m'a empêché de l'envoyer à la garderie le jour où un lunatique allait y mettre le boxon, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que quelque part, il faut. Je suis plus tranquille en sachant, quand j'entends aux informations qu'une attaque a été déjouée ou un truc comme ça. Ça me rassure, tu vois. Donc, du coup, in fine, avec toute cette histoire, j'aimerais bien avoir la lumière sur des situations où on a eu des abus. Voilà, telle année, on a fait une écoute et puis on a mis en prison quelqu'un à tort parce qu'on a entendu ça sur ses écoutes. Et également, ben, on a réussi à déjouer telle attaque grâce à ça. Donc maintenant, on demande au peuple américain de voter et de dire si oui ou non vous pensez qu'on a le droit d'écouter, quoi.
Mais alors le problème... Vas-y.
Je suis d'accord avec toi sur le principe. À une nuance près, c'est que je vois pas en quoi écouter les diplomates français aller déjouer une attaque terroriste quelconque au Canada, tu vois, par exemple. C'est plutôt le fait que là on s'attaque à des cibles diplomatiques, donc des choses qui normalement sont pas censées fuiter. Des choses...
Disons que l'ambassade d'un pays étranger, c'est un territoire étranger.
Hein, voilà.
On est en France, à l'ambassade de France aux États-Unis, on est en France. Donc,
exactement, c'est un bout de France là-bas. J'espère qu'ils ont du camembert et du vin.
Ah, je suis sûr qu'ils en ont. Ils ont tous
et des croissants. et des micros du coup dans les croissants. Mais je partage ton avis sur le fait. C'est toujours intéressant de se dire. Telle attaque terroriste a été déjouée, tel machin, tel truc. Mais ça pose des problèmes même de façon un peu plus globale sur est-ce qu'il faut accepter soi-même d'être entièrement transparent et de dévoiler toutes ces informations là à l'État, par exemple. Je monte à Paris bientôt en voiture et donc ils sont au courant que je monte à Paris en voiture, donc ils peuvent se dire bah tiens, est-ce qu'il va pas poser une bombe? Des fois je me retrouve arrêté, il fouille ma voiture. Attends, mais on va pousser le raisonnement loin, tu vois, et se dire que finalement ma vie privée intéresse tout le monde et tout le monde s'intéresse à ma vie privée. Est-ce que je suis prêt à accepter finalement de pas avoir de secret pour quiconque? Moi, ça me pose un problème, tu vois. Et ça pose un autre problème, c'est que
problème...
on est pas loin de, surtout dans le cas, tu vois, d'arrestation préventive. Il faut voir que c'est des moments qui sont violents, surtout pour quelqu'un qui est innocent. Quand t'es mis en garde à vue, c'est pas quelque chose de très plaisant, surtout qu'en plus. Quand on t'arrête pour terrorisme, je pense que ça doit pas se faire dans la bonne humeur, tu vois. On vous dit pas, monsieur, suivez-nous au poste. Je pense qu'on doit fracturer ta porte et ça doit bien te réveiller. Surtout qu'en cas d'erreur, c'est une expérience qui est traumatisante. Et y compris, pense à tes enfants qui sont dans ta maison le jour où tu te fais arrêter pour ça.
Non, mais les gars, je crois qu'on se trompe de débat, là. La question n'est pas, tout ce dont vous parlez, c'est des choses qui sont d'une part nécessaires. Le fait de surveiller les communications, pour faire du travail de police, pour prévenir des attaques terroristes, personne ne dira que c'est pas nécessaire. Le problème n'est pas là. Et même dans le cadre du travail de la police, il peut arriver qu'il y ait des erreurs. La police, comme tout le monde, peut commettre des erreurs. Je suis sûr qu'ils peuvent arrêter des gens dont ils pensaient qu'ils étaient coupables et que finalement ça n'est pas le cas, évidemment. Là, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que on a un réseau d'écoute qui dépasse, pour schématiser, hein, mais selon ce qu'on en comprend, parce que les choses sont pas encore claires, qui dépasse les besoins de la police. C'est ça le problème. C'est que c'est un système qui dépasse son cadre d'origine, qui a été étendu sans surveillance des organismes qui sont censés le surveiller. C'est ce que je disais dans l'épisode précédent du Rendez-vous Tech, quand on a fait le grand numéro sur Prism. Et c'est ça le vrai problème. Et j'en viens à une autre question qui a été évoquée ces derniers temps en France, ce qui est la question de la PNIJ. La PNIJ, que je retrouve le terme exact, c'est un système centralisé de surveillance de la police qui a été implémenté ou qui a été initié par l'administration de Nicolas Sarkozy. Donc ça fait quelque temps déjà. Et c'est à mon sens la raison pour laquelle j'en parle quand vous évoquez ces problèmes, c'est que ça cristallise très très bien le type de récupération du scandale de Prism pour l'appliquer à des préoccupations tout à fait légitimes qui sont celles dont vous parlez vous à l'instant. Mmh. C'est-à-dire que il faut vraiment faire la distinction entre le travail de la police qui est nécessaire et le moment où les choses dépassent ce qui est nécessaire. En l'occurrence, de quoi s'agit-il, cette PNIJ qui fait les choux gras de la presse en ce moment? il s'agit d'un système qui centralise en gros, encore une fois, je schématise, mais le travail d'enquête et d'écoute de tous les organismes policiers, a priori, en France. C'est-à-dire que aujourd'hui,
ça permet de faire des recoupements, quoi.
Non, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'on a un système unifié qui permet évidemment, comme tu le dis, de faire des recherches, mais d'avoir un seul système qui va pouvoir, où les gens vont pouvoir, et les gens et les enquêtes et les recherches vont pouvoir se parler entre eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a différents sous-traitants qui fonctionnent de différentes manières et qui ne réussissent pas à centraliser les informations. C'est-à-dire que on a un système de police qui n'est pas au fait de la modernité technologique qui est disponible aujourd'hui. On a un système de police
qui est... C'est
pas
trop nouveau, ça.
Mais non, mais c'est ça qui est terrible, c'est que c'est quelque chose qu'on sait. Je sais pas si vous êtes allé dans un commissariat récemment. Oui. Moi, ça fait quelques années. Mais c'est genre, il y a...
J'étais déposé plainte il y a pas longtemps et...
Bah voilà. Il y a un ordinateur dans un coin, il y a une personne qui sait s'en servir. Bon, je suis désolé, messieurs les policiers, je suis sûr qu'il y en a, que c'est pas le cas partout, mais la caricature, c'est un petit peu ça. C'est un ordinateur dans un coin qui est sous Windows 95, une personne qui sait s'en servir, et voilà. Et un système de dépôt de plainte qui est encore limite sous DOS avec des caractères verts sur un fond noir, quoi. Bon, évidemment, j'exagère, mais... Non, j'exagère, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que...
matriciel,
Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a par exemple des parties. Là, je lis un article du Nouvel Observateur qui dit des dépenses exorbitantes. Et je cite l'article. Le budget du projet, qui a 2 ans déjà, a explosé. De 17 millions d'euros, il est passé à 42 millions, révélé le canard enchaîné, en septembre dernier. La cause, le déploiement de la fibre optique jusqu'au site d'Elancourt par les opérateurs, etc., etc. Alors, effectivement, ça coûte très cher. Et ils disent aussi, la PNIJ est susceptible d'engager les deniers publics dans des dépenses exorbitantes par un nécessaire redimensionnement du réseau général de transmission. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le réseau de transmission actuel, le réseau de transmission, le réseau d'information de la police, n'est pas suffisamment moderne pour avoir un système centralisé.
Ah, ils n'ont pas numéricable, quoi.
Bah exactement, mais c'est le problème, évidemment ça coûte super cher, mais pourquoi ça coûte super cher? Parce que ça coûte super cher parce qu'on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, et on a un système où les différents départements policiers de France ne se parlent pas entre eux. On n'a pas un système unifié où on peut faire des recherches, où on peut centraliser les écoutes et les perquisitions et les mandats. Et il faut qu'on ait ça. Je veux dire, il est évident que le travail de la police, s'il ne se fait pas dans des conditions modernes, connectées au jour d'aujourd'hui avec Internet, on le reprocherait à la police. D'ailleurs, on le reproche à la police. On dit, mais c'est incroyable qu'il n'ait pas un équipement informatique et en réseau digne de ce nom.
Donc, c'est dommage qu'ils aient pas un Mac, quoi.
Un PC sur PC, ça marche très bien avec mais tu vois, c'est pour ça, j'insiste, et puis je m'emporte un petit peu, parce que pour moi, c'est très important de faire la distinction. Il faut un travail de police, il faut un travail de police moderne, en réseau, et il faut des systèmes d'écoute qui utilisent les techniques d'aujourd'hui. On peut pas reprocher à la police de se moderniser quand on lui reproche aussi d'avoir un système qui date des années 80. Donc voilà. Et de l'autre côté, et c'est pour ça que c'est très important de comprendre la différence, de l'autre côté, on a des abus qui ne sont pas acceptables. Et ce qu'on entend de Prism, à mon sens, selon mon estimation, rentre sans doute dans cette catégorie. C'est-à-dire que on a des écoutes qui dépassent le cadre d'origine, c'est-à-dire que d'un travail de police pour la recherche d'actes terroristes, on en vient à visiblement des systèmes qui emmagasinent l'ensemble des communications qu'on peut récupérer de Google, Facebook, Apple, etc. Sans discrimination et sélection, et sans même ce qu'on appelle en anglais probable cause, c'est-à-dire suspicion raisonnable. on ne se pose même pas la question de savoir si cette personne pourrait effectivement avoir pris part à des activités ou pourrait prendre part à des activités illégales.
C'est pur et simple, tout le monde sans distinction, quoi. C'est tout.
C'est ça.
Ouais, mais du coup, je maintiens ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne sait pas.
Minority Report, quoi, qu'on prévoit les crimes à l'avance. Et...
Peut-être pas, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une conversation, on pourrait la qualifier comme, il y a aucune information pertinente dedans, elle ne sert à rien. Et puis, mais mis dans un autre contexte où tu as une pièce supplémentaire dans un puzzle, cette conversation, elle pourrait avoir une importance tout autre. Enfin, elle pourrait être codée, elle pourrait avoir une double signification, quoi que ce soit. Mais si tu ne l'as pas enregistrée, si tu n'as pas un historique de toutes les conversations qu'il y a eu, ça peut rendre très très compliqué une enquête, en fait.
T'as pas tort, oui.
Donc du coup, on se dit, ah merde, si on avait l'enregistrement, ça nous aurait bien aidé, on aurait pu déchiffrer tel truc. Mais en même temps, c'est borderline comme sujet, tu vois. Du coup, tu leur permets de tout enregistrer. Ouais, mais
bah, c'est ça. Mais le problème, en fait, c'est le problème des abus. Et on sait très bien que dans ce genre de situation, il y a toujours des abus.
Regarde, Yann, tu montes ta boîte d'informatique, t'as un super projet d'application et tout ça. Un mec de la NSA chope ta conversation et il y a un pote à lui qui justement avait un projet similaire et il va le voir et il lui dit bah tiens attends regarde il y a Yann qui prépare une super application et tout ça, voilà ses idées, tiens je te les file, voilà son enregistrement. Tu vois, tu serais content de ça toi?
Non, je dis juste qu'il y a pas de solution parfaite. Je pense pas qu'on va trouver aujourd'hui une solution qui va adresser tous les problèmes, qui nous permettra de régler tous les trucs.
Là, quand on en est, tu vois, à espionner des... Je mets l'espionnage industriel au même niveau que ce qui est en train de se passer avec Prism et les écoutes des diplomates. Parce que ça, c'est de ce niveau-là. Hein. Il peut y avoir des secrets de ce type-là. Moi, je trouve ça gênant. C'est-à-dire qu'on a l'impression... Enfin, on le sait. En plus, c'est ce que je disais à Patrick hier, pas plus tard qu'hier, quand on discutait sur Skype, on le sait en plus. Je veux dire, il n'y a pas une série ou un film qui te montre pas que la NSA, elle flique absolument tout et tout le monde. Il n'y a pas un film d'espionnage où tu vois
c'est un truc qui me dérange, voilà, Cédric.
C'est de la fiction, mais on le fait passer... Enfin,
non, mais c'est que les gens qui disent, on en parlait là encore dans l'émission précédente, mais les gens qui disent, ah oui, mais on le savait, machin, enfin, il y a une énorme différence entre le fait de fantasmer... Oui,
voilà, pardon, et là, on est dans le réel, et du coup, je me sens mal. Je me sens mal dans le sens où je me dis, mon pays, c'est-à-dire mon gouvernement que j'ai élu ou pas d'ailleurs, mais mon gouvernement n'est même pas capable de se protéger de ce type d'intrusion. Tu vois ce que je veux dire?
Tout le monde doit jouer avec les mêmes règles. Enfin, c'est-à-dire à partir du moment où le gouvernement est en train de te mettre la pression parce qu'ils ont un enregistrement compromettant par rapport à tel ou tel, enfin, c'est des leviers finalement, des leviers de pression, et dès que
j'ai l'impression qu'en fait
on est armé, c'est un peu comme les brevets.
Oui, justement, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est que l'Europe était en toute confiance avec les États-Unis, et que, enfin, je vois mal un pays européen aller, peut-être que c'est le cas et je me trompe, hein, un pays européen aller espionner les États-Unis, quoi, en fait.
Moi, je pense qu'il y a de l'espionnage d'ambassade à ambassade et de pays en ambassade tout le temps. Le problème, c'est que c'est pas fait de manière aussi importante, systématique. Ouais. Et surtout, là, ça fait partie d'un scandale qui a été rendu public, donc les gens sont obligés de réagir. Ceci dit, Yann, il y a quand même... Moi, je trouve que ce que tu as dit sur le fait d'emmagasiner les conversations et de les garder pour le cas où on pourrait en avoir besoin plus tard, c'est extrêmement intéressant et c'est un argument tout à fait valable. Ceci dit, il y a des potentiels pour les abus et à chaque fois qu'on parle de ce genre de choses, on pourrait parler de « j'ai rien à me reprocher, donc ça me dérange pas qu'on m'espionne », qui est quelque chose que les gens disent fréquemment, mais qui pose énormément de problèmes dont on pourrait parler un autre jour. Mais moi, il y a une comparaison qui me vient souvent quand on parle de tous ces sujets, et qui est que on a toujours un équilibre à trouver entre... dans tous les domaines. Et en l'occurrence, oui, la menace du terrorisme ou d'autres menaces font peur, mais on ne peut pas obtenir la sécurité parfaite. Et le fait de faire miroiter la sécurité ou de tendre vers la sécurité parfaite, c'est-à-dire de se dire « Ah oui, mais regarde, si on a ça, ça et ça, on pourra encore mieux nous protéger », c'est un argument très, très tendancieux. Ouais. Et en l'occurrence, la chose qui me vient, c'est la question de la sécurité en voiture. C'est-à-dire que on doit trouver un équilibre sur la sécurité en voiture. Et si on voulait que les gens meurent moins dans le monde, ou en tout cas dans nos sociétés occidentales, un des moyens qu'on aurait pour réduire le nombre de morts, c'est d'interdire les voitures. Voilà. T'interdis les voitures.
Oh, d'interdire les roues aux voitures, ça suffira.
Par exemple. Mais tu interdis les voitures tout de suite, bah, c'est clair, il va y avoir moins de morts immédiatement du jour au lendemain. Mais on ne le fait pas, on accepte une certaine part de risque parce que il y a d'autres choses auxquelles on tient. Et en l'occurrence, je crois qu'on est dans ce type de dichotomie où on accepte une part de risque, la part de risque de peut-être que si on n'a pas 90% de sécurité, mais seulement 70%, eh ben, il y a des risques que les choses arrivent de temps en temps, mais en contrepartie, on garde un certain contrôle sur nos données privées. Bon, ouais. Continuons sur la suite. À moi, je vais vous laisser le fin mot.
Non, mais vu le nombre de fois où on a dit terrorisme, sécurité,
ouais. C'est bon, on est fiché.
Je pense que Tris nous écoute. Alors du coup, je salue mon ami Bill de la NSA. Salut Bill.
Ouais, mais effectivement, on le sait bien hein, sur Internet, terrorisme et pédophilie, ce sont les deux épouvantails qu'on agite systématiquement pour faire passer des choses. Et donc forcément, parfois c'est justifié, parfois ça nous préoccupe un peu plus. En l'occurrence, je crois qu'on est dans un cas où les États-Unis ou la NSA a outrepassé ses droits, et notamment, encore une fois, comme on le disait dans l'épisode précédent, l'un des éléments qui peut nous indiquer qu'il y a un problème, c'est que la NSA a menti à l'organe du gouvernement qui était censé surveiller ses activités. Donc, dans la balance des pouvoirs, dans l'équilibre des pouvoirs, il y a une section du Parlement qui est censée surveiller les activités de la NSA et l'autoriser ou ne pas l'autoriser à faire certaines choses. Et la NSA a menti à cet organe qui est censé le surveiller. Donc, à partir de là, on se dit que le système ne fonctionne pas. Et
non,
donc,
mais
il y a
en plus,
un problème.
C'est marrant parce qu'on a l'impression que les gens découvrent l'espionnage des États-Unis alors qu'il y a quelques années, on parlait d'échelons sans arrêt. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça.
Mais hein. C'est pas tout à fait la même chose.
Non, je sais bien que c'est pas tout à fait la même chose, mais on était déjà dans l'interception de communications électroniques, de tout en fait, de SMS.
Là, on passe à la vitesse supérieure. Quand
et
même.
Voilà. Et là, on est dans, on va dire, l'application pure et dure. Et puis surtout une réalité quoi, des choses prouvées. Échelon. Enfin, si tu veux, ça nous touchait pas plus que ça parce que TF1 on n'avait pas parlé quoi. non mais c'est bête à dire hein, mais ça rentre pas dans la tête des gens si c'est pas passé sur
peut-être,
une.
Non, et puis il y avait d'autres disons que Echelon il pouvait écouter tes conversations téléphoniques et puis il fallait un mandat et c'était appliqué au moment où mais il ne stockait pas l'ensemble des données.
Oh, peut-être que ça a changé ça aussi hein.
C'est possible, oui, c'est possible.
Vu le prix du terrain aujourd'hui hein.
Le fin mot, Yann? Non, c'est bon, on continue.
Non, Facebook. Je pense que tout a été dit.
Très bien.
Je pense qu'on peut enchaîner sur le sujet suivant.
Alors, le sujet suivant, justement, on va continuer à parler de gouvernement, mais sur des sujets un petit peu différents. La Hadopi engagerait visiblement une réflexion sur une sorte de licence globale. C'est une information qu'on a entendue il y a quelques jours de ça. Il y a un communiqué officiel de la Hadopi qui explique qu'elle va réfléchir à un système de rémunération compensatoire des échanges non marchands. Alors, les échanges non marchands, on comprend bien, ça veut dire les échanges de copies. Hein, oui. On parle de ce genre de choses. Et ils évoquent encore un système de compensation équitable et proportionnel. Donc bon,
alors là, moi, c'est le côté proportionnel qui me fait peur.
Là, bienvenue à la SACEM. Hein.
Oui, bah oui, non, mais c'est un petit peu ça. Mais en même temps, si on se retrouve avec un système plus ou moins équivalent à la licence globale, pourquoi pas ? Surtout
oui, attention,
que
y a une différence. Hein. La SACEM, c'est un peu du pifomètre pour la rétribution.
Oui.
Là, on est dans.
Bon, c'est du pifomètre, non ? Normalement, on a des chiffres.
Il y a tous les artistes inscrits à la SACEM, les petits. Te diront qu'ils touchent absolument rien du tout et que c'est toujours...
C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mon frère, par exemple, qui est pas un artiste, l'artiste le plus connu de la Terre, il touche de la SACEM régulièrement son chèque qui vient parce qu'ils ont joué tel ou tel morceau sur telle ou telle radio.
Là, on est dans une industrie numérique. Où les choses peuvent être traquées exactement. Donc, j'espère que la rétribution sera la proportionnelle exacte et pas un truc au doigt levé, quoi.
Bon, ça, je sais pas si c'est comment ça sera mis en place. Ça n'est qu'une réflexion faite par la Hadopi et de la Hadopi au gouvernement, il y a déjà un pas énorme. Alors, et surtout que la Hadopi risque de passer sous l'égide du CSA.
C'est sûr.
Bon, on est très loin de l'application, mais c'est intéressant.
Le CSA va devenir un organe tentaculaire.
Un petit peu. C'est d'autant plus intéressant qu'Aurélie Filippetti a confirmé vouloir taxer l'ensemble des appareils connectés. Donc, on l'évoquait il y a quelques semaines. Cette taxe préconisée par Pierre Lescure sur l'ensemble des appareils connectés pourrait effectivement voir le jour. Donc, si on a une taxe, du coup. Moi, ça me dérangerait moins de payer une taxe comme ça si on se dit ça sert à une licence globale qui va légitimer un petit peu l'échange,
le
partage.
C'est ça, on n'en sait rien que ça va légitimer quoi que ce soit. Là.
Ah bah on sait pas.
BD, tous les médias vierges, ils sont déjà taxés, on n'a rien eu.
Bien sûr. Bien sûr. Non, mais tout à fait. Mais bon, c'est intéressant, disons, que la DOPI engage à demi-mot une réflexion sur la licence globale. On a un autre sujet éminemment gouvernemental qui est la menace sur Amazon d'interdire l'envoi gratuit et la réduction de prix pour les livres. C'est-à-dire que Amazon fait de l'envoi gratuit, de la livraison gratuite à partir d'une certaine somme et en plus fait une réduction de 5% sur les livres, ce que l'État voudrait interdire.
La FNAC fait aussi une remise sur les bandes dessinées depuis très longtemps.
Tout à fait, mais il n'y a pas l'envoi gratuit.
Oui, non, mais quand j'allais en boutique l'acheter, j'avais aussi la remise.
Tout à fait, oui.
Et les frais alors... de livraison, c'était mes pieds, donc...
Non, mais est-ce que vous savez pourquoi l'État est si mécontent de ces pratiques d'Amazon ?
Non, j'aimerais bien le savoir.
Eh bien, écoute, figure-toi que c'est bon. D'une part, parce qu'ils aimeraient bien qu'Amazon paye plus d'impôts. Voilà. Hein, ça, c'est une première chose. Mais l'autre chose, c'est que il y a en France une série de lois et de règles qui visent à protéger les petits libraires.
Oui, les petits libraires, oui. Oui, voilà. Le lobbying a bien fonctionné.
Oui, moi je me prononcerai pas sur la justice ou la justesse.
Non, mais
c'est
pour que ces lois-là soient, elles sont vieilles, hein. Ces lois, c'est pas.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Mais à l'époque, on se doute bien que c'est pas uniquement. C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un métier est complètement transformé. La distribution a été transformée. Enfin, je veux dire, les libraires, ils sont protégés aussi. Enfin, cette loi leur permet d'être protégés, non pas face aux distributeurs sur Internet, mais à la grande distribution.
C'était la FNAC et la.
Exactement, ce que j'appelle la grande distribution.
Je dis la FNAC, mais en fait, c'est même plus Auchan et Super U.
C'est tous ceux qui vendent de la culture en caddie, quoi. J'exagère.
La culture en caddie, c'est pas mal. Non, mais voilà. Si, c'est bien. Mais
c'était pour les protéger de ça. Et le problème, c'est qu'on se retrouve face au même problème que la musique et la dématérialisation et tout ça. C'est un métier change. Il y a des, enfin, c'est toujours embêtant quand une technologie vient comme ça casser quelque chose et remettre à plat complètement un modèle économique. C'est toujours embêtant. Il y en a plein, parce que là, mais le problème, c'est qu'on a l'impression que dès que ça touche la culture, ça devient ultra problématique et.
Moi, je vais te dire pourquoi cette règle. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, et même pas forcément l'avocat du diable, parce que je pense que la raison, comme souvent, tu sais, on analyse un petit peu en surface ce type de loi qui nous semble agressive et exagérée et difficilement justifiable. Il y a souvent une réflexion qui, en dessous de tout ça, peut se tenir. En l'occurrence, l'idée, c'est que ce type d'enseigne, on parle plus de la grande distribution de Auchan et des grands supermarchés que de la FNAC, mais ce type d'enseigne fait son chiffre d'affaires sur quelques énormes succès.
Ah ben 80
qu'ils vont vendre. Voilà, mais même plus que ça.
Oui,
Et ils ont, on va dire. 10% ou 5% de la sélection d'une boutique spécialisée. Donc c'est pareil pour le pour les CD, enfin pour la musique, pour les BD, pour tout, hein. Ils ont, on va voir chez Auchan, une centaine de références littéraires, une centaine de références livres, et ils vont vendre le dernier Goncourt, le dernier Féminin, oui, le dernier machin, et c'est tout. Et l'argument des libraires, qui est pas forcément faux, c'est que si on ne protège pas artificiellement et par la loi les petits libraires, eh ben le résultat peut être que les petits libraires ne pouvant pas survivre face au prix que vont pouvoir pratiquer les grandes enseignes, eh ben avec les petits libraires, s'ils disparaissent, avec eux va disparaître toute une partie de la littérature qui est moins vendeuse, moins commerciale, moins représentée, voire pas représentée dans ces grandes enseignes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut protéger la culture et ces petites enseignes. Donc, je ne sais pas si c'est le cas. Je ne sais pas. En l'occurrence, Amazon a absolument toutes les références. Ouais, voilà. Donc c'est un petit peu différent aussi, mais... C'était la raison, donc.
Non mais tout à fait. Hein. Et ça s'applique aussi à la musique et à tout un tas de choses. Hein. Mais les disquaires, tu vois, ont pas été protégés plus que ça. Hein.
Non, et d'ailleurs ils ont disparu et la musique n'a pas spécialement disparu.
Elle a pris
d'autres formes. Et la
musique n'a pas disparu, donc.
Tout à fait. Yann,
et les vidéoclubs aussi, hein, tu vois, ont disparu.
Oui, oui, non, c'est sûr. Et c'est pas un drame voilà. Pour l'humanité, oui, c'est sûr. Et les films ont pas disparu parce que les vidéoclubs ont disparu. C'est pas faux, c'est sûr. Au Canada, Yann, il y a encore des petits libraires ou c'est que des, enfin, à Québec, ou à Montréal,
écoute,
pardon, à Montréal, toi?
Je viens de m'inscrire à Audible, donc, voilà, ça va tout dire. Effectivement, les choses évoluent et un peu comme Cédric, en fait, je suis un petit peu mal à l'aise avec cette obstination à vouloir maintenir finalement un système qui ne fonctionne plus en fait. Je comprends que la culture, voilà, il faut la protéger et tout, mais peut-être que la culture peut se transformer, qu'elle peut évoluer également et que ce service, ces références, ce service qu'on a justement chez les petits libraires, peut-être qu'il peut se transformer en un service différent sous une autre forme, plus évolué, que ne peuvent pas fournir les grandes surfaces. Alors après, c'est à eux de venir avec d'inventer ce nouveau type de service, de créer un besoin nouveau. Mais je ne pense pas que la solution soit en bloquant Amazon sur les livraisons gratuites. Oui, je pense que c'est juste déplacer le problème en fait.
Oui. Alors effectivement, pour préciser, hein, l'histoire des livraisons gratuites et du 5% de réduction, c'est que on a droit en fait à faire 5% de réduction selon la loi au maximum. Et l'argument était que avec les 5% de réduction d'Amazon plus la livraison gratuite, on dépassait les 5%. Donc c'est ce que voudrait interdire la loi, c'est de faire à la fois les 5% et la livraison gratuite.
C'est l'un ou l'autre.
Bon, je pense que quoi qu'il arrive, je suis pas certain que Amazon souffre terriblement de cette petite modification, si elle passe, hein, ce qui est même pas sûr. Et encore une fois, je pense que le gouvernement s'intéresse plus à Amazon pour les questions d'impôts que pour les questions de.
Bon. En fait, c'est un peu une menace pour leur dire. Écoute, si tu payes tes impôts, je dis à Aurélie de se calmer.
C'est possible, oui. Le CSA veut réguler les boutiques d'appli mobile.
Ouais.
Et là encore, ça me fait un petit peu peur parce que on en parle souvent. Hein, Apple est très prude et souvent interdit certaines applications pour des motifs qui, selon certains, ne sont pas incroyablement justifiés.
Ouais, un téton ou un truc comme ça. Quoi.
Voilà, exactement. Et à mon sens, le fait que le CSA régule ce genre de choses est un peu malvenu parce que je l'ai souvent exprimé. Pour moi, Apple a une boutique en ligne parmi d'autres, un système de boutique en ligne parmi d'autres. On a Android, Windows, d'autres systèmes qui existent. Et à partir du moment où il n'y a pas de monopole, on n'interdit pas, par exemple, à Auchan, pour les rappeler eux, ou à n'importe quelle petite boutique de livres ou de CD ou n'importe quoi. De refuser un produit. Si c'est un produit qu'ils ne veulent pas, ils vont dire, bon, bah, écoutez, je suis désolé, celui-là, il me plaît pas, je vais pas l'avoir dans mon magasin.
Là, je le référence pas, quoi.
Voilà, je le référence pas, c'est la
j'y crois pas,
la discrétion de tout le monde.
Voilà, t'as le droit, oui.
Ou même, si tu trouves que c'est de mauvais goût,
ou si t'es pas d'accord sur le prix aussi qu'il te fait,
voilà. Ou par exemple,
il y a plein de motifs.
Non, mais je veux dire, pour les questions de morale, ça peut être, pour des questions de morale, tu peux dire, alors, bon, il y a certains cas particuliers, mais si tu dis, bon, là, c'est un truc qui me semble un petit peu trop posé, moi, je veux pas avoir ce produit dans mon magasin, tu as le droit. Donc, la déclaration du CSA qui disait, bon, on veut aller voir ce qu'ils font avec les raisons pour lesquels ils refusent les trucs, moi ça nous paraît pas bien catholique pour être drôle dans la formulation. Bon, moi ça m'inquiète un tout petit peu. Je suis pas certain que le CSA ait vraiment quelque chose à voir avec les
décisions. Gesticule pour justifier quand on leur donne de l'argent.
C'est possible.
Quoi.
Ouais. Voilà. Autre changement, là pour le cas plutôt positif à mon avis, je pense. Hein, mais on va voir si vous allez me contredire. Il y a, est-ce que vous saviez que l'IP tracking peut avoir une influence sur les prix que vous voyez, oui. Sur notamment les... Alors, tu connais, Cédric, peut-être que tu peux nous l'évoquer.
Bah, sur les sites de voyage et ce genre de choses.
C'est ça. C'est-à-dire que...
Ouais, c'est-à-dire que tu vas sur un site web, on t'affiche un prix, genre, je sais pas moi, un voyage en avion Bordeaux-Paris à 44 euros. Et tu t'en vas, tu vas comparer, tu vas voir le prix sur le site concurrent. Alors, il y a plusieurs méthodes. Hein. Tu vas voir, tu trouves un prix concurrent chez un concurrent qui est un peu moins cher, tu retournes sur le site et là, boum, le prix s'est aligné, par exemple. Ou inversement, c'est-à-dire que si, pour te faire acheter tout de suite, si tu l'as pas acheté lors de ta première visite, lors de ta seconde visite, le prix augmente un peu. Lors de ta troisième, il augmente encore,
ouais.
Jusqu'à te faire acheter le prix du billet, quoi, en fait.
Et tu sais que moi, pour tout, la connaissance technologique, je suis quand même au courant de ce genre de choses, je me suis fait avoir plus d'une fois. Tu vois le truc, ça monte et tu dis merde, ça y est, il y a plus de place, machin, il faut que je le prenne tout de suite.
En fait, que dalle.
Et en fait, rien du tout. Donc, il y aurait un amendement au projet de loi consommation qui est en train d'être discuté à l'Assemblée nationale,
ouais,
maintenant.
C'est un peu comme ces sites qui t'affichent plus que 12 personnes l'ont mise dans leur panier. Plus que 12 exemplaires
disponibles.
Tu vois, oui. Ces discounts, c'est juste les spécialistes. Va sur ces discounts maintenant. Tu consultes n'importe quelle fiche produit. Tu vas avoir 14 personnes l'ont mise dans leur panier. Les gens, tu sais, c'est une machine à laver à 1000 euros, quoi. Super. J'exagère, mais c'est un peu ça, quoi. Et ça, ouais. C'est, pour moi, c'est de la publicité mensongère dans le cadre des discounts. Et dans le cas où les prix augmentent, c'est purement et simplement une pratique commerciale qui est détestable, quoi. Enfin, une arnaque presque.
Je pense que oui. Là, en l'occurrence, il l'appelle un leurre informatique.
Ouais, c'est ça.
Et
c'est
je pense qu'effectivement, là, on. Oui, c'est de la tromperie.
Parce que c'est pour le même produit, tu payes plus cher juste parce que t'as actualisé ta page, quoi. Donc,
c'est
ça.
Bah, c'est même pas que tu payes plus cher pour actualiser ta page. Si encore il disait, vous pouvez le prendre maintenant, mais si vous attendez, il sera plus cher et on vous le dit. Là, à la limite, pourquoi pas. Mais là, c'est pour te faire croire que le prix est en train d'augmenter parce qu'il en reste moins. Donc là, on est clairement,
dans le mensonge,
tromperie, quoi.
Faux,
ouais. Donc bon, là en l'occurrence, c'est pas mal comme pratique, comme
oui, ça c'est normal.
Voilà. Et puis une dernière chose, hein, on va clore cette partie sur le gouvernement pour vous parler de vos amis qui vous aident et qui vous soutiennent dans toutes ces histoires beaucoup plus que nous on ne le fait au Rendez-vous Tech, c'est-à-dire la quadrature du net. Alors la quadrature du net, je ne sais pas si vous connaissez, mais on l'a souvent évoqué bien sûr, et si vous suivez un petit peu les blogs sur le sujet, vous en aurez entendu parler. C'est une association qui fait en France un petit peu ce que fait l'IFF, Electronic Frontier Foundation, aux États-Unis, qui défend les droits des consommateurs dans le monde du net. Alors moi, je suis pas toujours d'accord avec eux. Ils ont quand même une attitude particulièrement militante et offensive, mais il n'empêche que c'est l'un des seuls organismes qui comprend la manière dont fonctionne Internet et qui comprend les enjeux au niveau national et européen et même mondial. Ils sont très actifs et c'est important qu'on ait des gens comme ça. Donc moi, en l'occurrence, je leur ai donné un petit peu de sous et je vous engage à le faire aussi. Vous pouvez aller sur laquadrature.net.
Moi, je l'avais fait l'année dernière. Je n'ai pas pensé à le refaire cette année.
Ouais, écoute, voilà, je le rappelle. Je l'avais fait l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus. Je l'ai refait cette année. Ils ont besoin d'un budget
225 000 euros.
Voilà, 225 000 euros pour fonctionner l'année. Il vous détaille l'utilisation du budget et tout ça. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Donc, je vous encourage à aller leur filer quelques sous.
Ouais, surtout que pour le moment, ils sont à 26 000. Donc,
c'est ça.
Il va falloir
accélérer le mouvement, là. Ils ont besoin de 10 fois plus. À mon avis, ils vont pas l'atteindre. Hein, parce que là, on a déjà.
Oui, mais c'est pas grave, là. C'est pas un Ulule. Ils ont quand même l'argent.
Non, c'est sûr, mais je veux dire, ils vont pas l'atteindre en sens que ça fait déjà plusieurs jours, même 2 semaines qu'ils ont commencé, et ils ont seulement 26 000, c'est pas énorme, quoi.
Ouais.
Donc, bon, Bref, vous, si vous voulez les soutenir, et je vous encourage à le faire, c'est sur laquadrature.net. Bon, voilà nos trois grosses parties terminées au bout de 1h12 d'émission. On n'a plus de sponsors, hein, puisque la boutique No Watch,
Fanshop
No Watch, a fermé. Ça date d'il y a 2 jours à peine. Donc, si vous n'avez pas acheté vos goodies, c'est trop tard. Il y a quand même
le workshop
qui est disponible pour les t-shirts. Mais bon, donc on va passer aux news et rumeurs. Les alternatives à Google Reader, vous le savez, Google Reader a fermé et certains d'entre vous l'utilisaient encore. Moi, j'ai fini par utiliser, par me rabattre sur Feedly,
qui a beaucoup. Dans mes bras.
Ouais, il est pas mal, hein, Feedly.
Moi, ça fait très longtemps que j'utilise, en fait.
Mais en fait, moi, je l'avais utilisé avant, je l'avais essayé avant, et je l'avais pas adoré. Mais là, ils l'ont beaucoup changé.
L'appli mobile est exceptionnelle, je
trouve. Ouais. Enfin, bref. Donc, Feedly, si vous cherchez une alternative à Google Reader, F-E-E-D-L-Y, c'est pas mal du tout.
Ouais. Fonctionne avec NG Reader sur Windows Phone. Tiens, allez, hop, je l'ai casé comme ça.
Bien joué.
Mais comme ça, oui, parce qu'il n'y a pas d'application Feedly sur Windows Phone. Ouais. Pas pour le moment, en tout cas, mais NG Reader, donc Next Gen Reader, le supporte sur Windows Phone, comme, en fait, vous tapez vos identifiants comme vous faisiez avec Google Reader, quoi.
Exactement. Google, il s'est passé quelque chose d'intéressant en Allemagne. Vous vous souvenez de cette offensive de la presse française qui voulait que Google paye pour mettre des liens vers leur site dans leur partie Google News. Eh bien, l'Allemagne était un petit peu sur la même voie et Google a fait un changement assez radical sur Google News en transformant le fait d'apparaître sur Google News de opt-out à opt-in. Voilà. C'est-à-dire que par défaut, vous n'apparaissez pas sur Google News.
Si vous voulez y être, faut le demander.
Faut le demander, exactement. Faut l'autoriser. Et du coup, évidemment, à mon avis, ça assomme complètement l'argument de la presse parce que voilà. Ne pas être sur Google News, c'est se couper d'une partie du trafic qu'il vous envoie. Et donc, je pense que la plupart des gens qui disaient on veut que Google nous paye vont tout à coup autoriser le.
Ils auraient dû le faire en France aussi. Hein.
Je trouve aussi, oui. Je trouve qu'ils auraient dû.
Mais c'est une solution que moi j'aurais mis en place directement dès que ça s'est présenté. Hein.
Je pense qu'ils auraient dû, mais ils voulaient pas faire un précédent et puis ils ont réussi à trouver un truc genre à l'amiable pour régler la question. Sur 3 ans, ça sera complètement réglé en payant un petit peu d'argent. Et bon, là, l'histoire en Allemagne, je pense que c'était la suite de série qui a fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et ils ont dit bon bah c'est bon, on va plus encore payer. Ils avaient payé en Belgique, ils ont payé en France.
Ça va aller, quoi.
Et là, c'est.
C'est bien. Les gouvernements ont besoin d'argent, mais bon.
La CNIL donne 3 mois à Google pour se conformer à la loi, c'est-à-dire que il faut que les utilisateurs aient des informations sur l'utilisation des données personnelles qui sont stockées par Google. Ça, c'est une bonne chose, je trouve.
Mm-hmm. Ouais, j'aimerais bien savoir ce qu'ils font. Les informations qu'a Google à mon sujet là, parce que des fois, ils me sortent des trucs, c'est flippant.
Je sais pas si j'ai envie de savoir. En fait. Tu vois,
des fois tu fais des navigations un petit peu hors du commun et puis tu dis oups, j'ai oublié de me mettre en anonyme là.
mais en l'occurrence c'est surtout pour l'utilisation qu'ils en font. Et l'utilisation qu'ils en font, c'est, on le sait tous, hein, c'est la pub.
Voilà, c'est ça.
Mais bon, c'est pas mal. On a une
la
loi
pub
en
et
France.
Prisme.
Et Prism aussi, bien sûr.
Ah oui.
Mais bon, on a la loi qui dit que les consommateurs ont le droit de savoir comment sont utilisées leurs informations. Je pense que c'est une bonne chose que cette loi soit respectée. Je vais continuer à avancer.
À
bon droit à l'oubli.
Les racketiciels, j'aime bien ça.
Oui. Alors, ça, c'est une news pour faire plaisir aux fans de Linux. Il y a un projet de loi du gouvernement qui est toujours sur cette loi relative à la consommation qui voudrait qu'on ait un renforcement de la protection des consommateurs contre les pratiques déloyales dans le domaine de la vente forcée. En fait, très clairement, on vise la vente de Windows avec des ordinateurs dans le commerce et ce projet de loi voudrait que soit détaillé dans le prix de la machine qu'on achète en grande surface ou à la Fnac ou ce genre de choses, soit détaillé le prix des logiciels vendus en lot. Par exemple, Windows ou d'autres, le prix de Windows serait détaillé dans le prix total. Et ça voudrait
dire que tu as le droit de dire que enlevez-moi Windows et je prends la machine sans.
Non, enfin si le vendeur ne le
donc
propose
pas. En fait,
t'es
pas, juste vénère de claquer 200
dollars. Non, mais en fait, c'est même plus que ça. L'idée, c'est que ça te fait te rendre compte que tu payes tant pour Windows et que t'es obligé de l'acheter. Donc la pression du consommateur ferait que les constructeurs, il y a des options sans Windows, hein. Ça existe,
oui,
c'est possible.
Bien sûr, bien sûr.
Donc les consommateurs, les constructeurs seraient plus encouragés à en proposer plus. Et donc dans l'idée ça pourrait fonctionner. Le problème c'est que concrètement ce type de pratique est très difficile à mettre en place parce que les licences de Windows non seulement sont vendues par milliers mais en plus ça fonctionne d'une manière différente qui est
milliers,
que enfin par milliers par millions évidemment.
Voilà.
mais en plus les systèmes sont faits de telle sorte que si le constructeur ne vend pas la machine, il ne va pas payer Microsoft. Il ne paye Microsoft que quand il a vendu la machine. C'est en fonction du nombre de machines vendues. Et les licences coûtent presque rien aux constructeurs ou très, très peu d'argent s'ils en vendent suffisamment. Et le prix change en fonction du nombre de licences vendues, etc., oui. etc. Donc concrètement, je ne suis pas certain que ça ait l'effet escompté. Mmh. À mon avis, ça, en l'occurrence, ça ne... les fans de Linux se disent enfin, tu vois, les gens vont pouvoir voir que Windows coûte trop cher et qu'il y a une alternative gratuite qui s'appelle Linux. Moi, je ne pense pas que ça aura l'effet escompté. Et bon, mais... Peut-être que si c'est mis en place, on se rendra compte.
Surtout que les licences OEM sont moins chères que les licences normales, donc ils vont retirer 50 euros du prix.
Exactement, oui. Donc du coup, t'as presque l'impression que tu fais une affaire, quoi. Parce que tu te rends compte que ton Windows, tu le payes 40 euros au lieu de 150.
Voilà, à la limite, tu le prends avec Windows et t'installes un dual boot avec Linux, quoi. Voilà.
C'est ça. Mais, mais c'est ça, c'est que, bon, enfin.
Ou tu vires Linux, mais t'as au moins ta licence que t'as pas payé cher, quoi.
Ouais. Ça n'aura pas du tout l'effet escompté.
Ouais, je crois aussi.
Google Mine, une sorte de librairie des choses qu'on a. Google est en train de travailler sur
Google va savoir plein de trucs sur toi.
C'est ça qui est marrant. Mais tu peux garder des traces et savoir où sont les trucs que tu as, genre ta collection de BD, tes CD, tes DVD, tout ça.
Comme ça,
ils
vont dire, voulez-vous compléter votre collection de, de Playboy avec... tu vois, Yann,
non,
après,
bon.
il va être embêté quand il va voir ce truc.
Mais tu sais, c'est pas plus mal. Comme on le disait la dernière fois, Google, la mission de Google, c'est d'organiser l'information du monde. Et le monde physique
ouais,
fait partie de ce
monde. Pas
spécialement
de ma chambre.
Oui, pas forcément. Bon, le truc qui est... Bon, bref, Google Mine, on verra le projet
oui,
s'il se développe.
Ça peut être rigolo, mais le seul truc, c'est qu'on sait très bien que ça va encore être réutilisé. Et si, par exemple, t'as une collection de jeux vidéo, il va te proposer le nouvel opus quand il sera sorti, enfin...
Bah pourquoi pas, c'est pas...
Ouais, pourquoi pas, mais est-ce que j'ai envie de... Enfin, c'est pas comme ça que c'est présenté. C'est présenté comme un truc pour organiser des choses chez toi. Ça m'embête qu'après, on me propose de la publicité en fonction de... Si on me dit, c'est un moteur de recommandation en fonction des choses que tu as chez toi, je suis pas trompé sur le produit, tu vois. C'est juste la façon dont c'est présenté.
C'est ça oui, bon, on sait pas comment, on sait pas s'ils vont effectivement donner des recommandations, on n'est pas, attendons d'en voir plus, mais.
Ouais, attends, Patrick, entre nous, si le produit est gratuit, non, j'en ai marre de cette phrase, mais enfin.
non, bien sûr, c'est sûr, mais ça peut être aussi un service qui est pratique pour savoir ce que tu, par exemple, imaginons, hein, si on part dans des questions tout de suite un petit peu négatives, imaginons, tu es sur Google Plus en réseau avec tous tes potes et, tu veux lire une BD ou tu veux, tu vois, tu veux avoir un truc que tu n'as pas. Tu fais une recherche. Si tes potes de premier niveau ont donné accès à Google Mine, tu peux savoir qui l'a déjà et tu peux lui demander de te le prêter, par exemple. Ça peut être
oui,
sympa,
oui,
ça.
Oui, oui. Et s'il l'a pas, tu peux l'acheter.
Aussi. Google préparait une montre et une console. Alors, on a aussi entendu que Apple préparerait une montre. Il y a
une console.
Une trademark qui a été déposée, une marque déposée au Japon. L'iWatch par Apple visiblement, donc ça se précise. Google préparerait aussi une montre et une console. Apple avec ses manettes pour iOS aurait la possibilité de débloquer les fonctions app sur son Apple TV et donc de transformer de fait l'Apple TV en console.
Ouais, Angry Birds sur la télé.
Donc bon, ça il semblerait que à mon avis 2014 les choses commencent à bouger un petit peu, recommencent à bouger un petit peu dans ces domaines-là. Freebox OS et Freebox Compagnon, bon ça bref, on s'en fout un peu. Freebox OS c'est l'interface de contrôle de la Freebox qui a été transformée. Ah oui, elle est très jolie, très sympa, vraiment. Et Freebox Compagnon c'est l'app de Freebox sur les mobiles. Donc si vous êtes chez Free et que vous avez tout compris à YouTube, passez sur la dernière le dernier free
firmware.
Firmware.
Ça continue
sur votre,
cette histoire de Freebox et de YouTube.
Ah oui, ça continue plus que jamais.
Ouais. C'est incroyable. Et d'options de blocage de publicité aussi, ça revient sur le tapis assez régulièrement. Enfin,
mais venez au Canada, les gars.
Ah, mais moi j'ai trouvé plus simple, je suis chez OVH.
Voilà. On change de FAI, c'est aussi simple. Hein.
Oui, j'ai redécouvert YouTube. Justement, Free, bon, il y a quand même des choses très intéressantes, hein, comme toujours chez Free, ils font des choses pas mal. Ils ont lancé le Femtocell.
Oh, c'est pas nouveau.
Non, c'est pas nouveau.
C'est que c'est gratos.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir un petit boîtier qui se met dans la Freebox, qui crée un réseau 3G à partir de votre connexion Internet. Alors évidemment, on se doute qu'ils vont partager le réseau 3G avec les autres personnes, donc ça va leur permettre d'étendre leur réseau facilement. Mais en attendant, enfin, le Femtocell, c'est une technologie qui est bonne et qui est, enfin, ça vous permet d'avoir du réseau chez vous
sans. Pas, mais c'est bon.
Ouais, non, c'est pas mal, moi je trouve ça bien.
Non, effectivement, ça fonctionne bien. Ouais. La nouveauté, c'est que c'est gratuit, alors que chez les autres opérateurs, fallait payer pour avoir ce boîtier-là. Le truc, quand même, c'est que...
Ça te file le cancer?
Ouais.
Bon, accessoirement, c'est écrit en tout petit sur le contrat.
Si tu dors sur ta box, il y a des chances pour que y ait des tu sois cuit le lendemain matin, mais le truc qui est nouveau donc c'est effectivement la gratuité et c'est aussi le fait que ça soit distribué à si grande échelle. Vu que c'est gratuit, enfin à la limite pourquoi est-ce qu'ils l'intègrent pas même carrément dans la box pour les nouveaux abonnés quoi. Donc ils vont étendre leur réseau artificiellement comme ça et puis ils vont profiter aussi de bah, comme ils brident le débit sur YouTube, ils vont avoir du débit pour passer les appels 3G dessus, quoi. Donc, non, mais ça pose une vraie question du nombre de téléphones qui peuvent se connecter à ta box, parce que ça utilise de la voix sur IP, hein, on est d'accord. Donc, ça utilise ton débit de ta box. Si tu as un débit qui est un peu limite et, je sais pas, moi, en bas de chez toi, il y a un mec qui a décidé de faire un concert et il y a 300 personnes, part de marché de Free qui doivent être entre 5 et 10%. Sur les 300 personnes, ça fait une trentaine de personnes, en gros, connectées éventuellement sur ta box. Ça commence à faire.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. On parlait de Linux et du libre. Il y a les premiers téléphones Firefox OS qui seront disponibles très bientôt. Le Alcatel One Touch Fire et le ZTE Open. Bon, a priori, c'est des téléphones qui seront plutôt sur les marchés en développement pour le moment. Mais c'est une bonne nouvelle pour Firefox OS parce que ils sont disponibles bien plus tôt que ce qu'on imaginait à l'origine. On pensait à 2014 et déjà ils sont en train d'être lancés. Donc bon, on suivra ça. Je suis pas convaincu que ça révolutionne l'industrie du téléphone mobile, mais c'est bien d'avoir une alternative totalement libre dans ce domaine aussi.
Eh oui.
Bon voilà, il y avait d'autres petites choses dont on aurait pu vous parler, les tags pour vos bagages en e-paper que vous pouvez retrouver et suivre avec des apps chez British Airways, les prix de l'itinérance mobile qui baissent partout en Europe, Google plus gros selon certains calculs financiers qu'Apple à la bourse, le dernier télégramme envoyé ce mois-ci en Inde, le dernier de l'histoire. Moi j'étais surpris qu'il y ait encore des télégrammes qui sont envoyé dans le monde, etc., etc. La smartwatch de Sony, il y avait plein de choses.
Le prix d'iTunes Radio.
Le prix d'iTunes, le prix que paye Apple au label. Ils font des choses intéressantes, hein, genre si tu écoutes à la radio un morceau que tu as déjà acheté, ils vont pas payer la radio. Ouais. Si tu passes le morceau dans les 20 secondes, ils vont pas payer la radio. Et il donne un tarif un petit peu plus intéressant et une part des revenus publicitaires, etc., etc. Donc bon, c'est plein de petites infos supplémentaires qu'on va passer pour faire un petit peu de place à mes très chers co-animateurs qui vont nous dire où on peut les retrouver maintenant sur Internet. Yann, que fais-tu sur Internet? Où te retrouve-t-on? Ça fait tellement longtemps.
C'est facile, sur xxx.com.
J'ai jamais dû dire ça.
Navigation privée.
Il va falloir que tu édites ce podcast. Écoute, moi, ça n'a pas changé. Je suis toujours disponible sur sur Twitter. Et puis en plus, j'ai vérifié que... Tu te souviens de mon histoire de mon nom de domaine Nialé.com qui avait été racheté par quelqu'un d'autre. Et on avait mis des photos assez chaudes dessus pour se faire de l'argent. Et j'avais pas pu racheter mon nom de domaine. Et en fait, bah, il est à nouveau disponible là. Donc,
ah bah dépêche-toi d'aller l'acheter.
Ça y est, hop, je l'achète.
Je viens de voir ça à l'instant là. Donc je vais essayer de le racheter juste après.
D'accord.
Okay, mais bon, mais voilà quoi. Yannallet.com.
Fais le vide,
enfin, sur Twitter
l'émission.
Plutôt. Et c'est essentiellement là quoi. Vous aurez mes nouvelles. Voilà.
Super. Et Cédric, alors oui. Bon, si j'ai bien compris, maintenant t'es millionnaire, tu t'achères des voitures de la mafia, tout ça. Grâce à Ulule, c'est
ça ? Ah ben grâce à Ulule, hein. Merci des gens, hein. On a récolté 14 000 euros, donc bon, on est content. Non, non, ben en fait, le nouveau site geeking.fr va débarquer ben, courant juillet. Donc voilà, on bosse sur ça en ce moment.
Félicitations d'ailleurs, je ne sais pas si je t'ai dit félicitations pour le Ulule qui a super bien fonctionné.
Oui, qui a super bien fonctionné, bien au-delà de nos attentes, hein, puisqu'on était parti sur 3200 euros au départ, c'était notre objectif premier, ouais. Et finalement on a tout pété, donc du coup on a débloqué plein de paliers, ouais. Donc
félicitations à l'équipe, et puis un grand merci aux auditeurs.
Exactement,
quoi.
Merci ouais. à tout le monde.
Merci à vous tous de soutenir le podcast indépendant.
Exactement, donc là voilà, on travaille d'arrache-pied dessus, et d'ailleurs c'est pour ça que le dernier Geeking était un peu en retard, mais il devrait sortir au moment où on enregistre, ça sera demain.
D'accord.
Mais voilà. Donc il arrive. On est un petit peu en retard à cause de ça. On a dû créer une association parce que on faudra faire une émission spéciale sur le crowdfunding parce que c'est une expérience. T'as l'impression qu'il suffit juste de demander de l'argent, mais derrière il y a beaucoup de choses. C'est très compliqué.
Ah, oui. Ah mais oui, tout à fait. Moi je suis partant. Un moment dans l'été.
Partager l'expérience. Hein.
Ouais. Donc, ça serait intéressant. Ouais.
Donc voilà. Donc on a dû créer une association, ouvrir des comptes en banque et machin et tout ça, et expliquer un peu d'où venait l'argent. PayPal nous a bloqué notre compte pensant qu'on blanchissait de l'argent. Enfin, toute une histoire. C'était très intéressant. Et donc voilà. Donc geeking.fr et sinon @CédricBonnet sur Twitter. Voilà.
D'accord. Ok, super, merci Cédric. Pour ma part, c'est toujours NotPatrick sur Twitter. Et comme je le disais tout à l'heure... French Spin, exactement. La maison, en fait, qui a vu naître le Rendez-vous Tech et Upload, hein, à l'époque aussi, c'était frenchspin.com. Donc frenchspin.com. J'ai ressuscité le site avec un nouveau design. C'est un site très, très simple, très mignon. Et en tout cas, il y a c'est la nouvelle maison de mes émissions. Donc vous y retrouverez le Rendez-vous Tech, et si vous voulez venir commenter l'émission, nous dire ce qu'on a dit d'intelligent ou de stupide, vous pouvez le faire sur ce site-là, sur frenchspin.com, et donc vous pourrez aussi avoir les liens vers les réseaux sociaux, enfin les miens, les flux RSS, tout ça qui ne change pas, hein, mais tout ça, et aussi
nouvelle émission. Je viens de taper frenchspin.com/fr parce qu'en fait c'était mon favori et je tombe sur l'ancien French Spin.
Ah bah oui, non mais il y a toujours les archives. Si vous voulez aller voir le tout premier Rendez-vous Tech, vous pouvez. Il y a les archives, elles sont toujours disponibles.
Mais vous avez répété en fait, hein, les sidekicks comme ça.
Le dernier article de French Spin, c'était le site No Watch est arrivé.
Bah oui. Non mais là, il est figé dans le temps. Il est toujours disponible. Le site, il y a tous les articles, les commentaires, tout ça. C'était à l'époque du Rendez-vous Tech 55. On est au 114 maintenant.
Voilà.
Ouais. Et si vous remontez suffisamment loin, vous verrez le tout premier logo du Rendez-vous Tech qui était ignoble. Mais ignoble, vous n'avez pas idée.
Oh.
Et donc ça, c'est frenchspin.com/fr. Mais ça, c'est l'ancien site. Le nouveau, c'est juste frenchspin.com, tout simplement. Et comme je le disais, il y a aussi un nouveau podcast, une nouvelle émission que j'ai lancée il y a une semaine environ. Avec pour les premiers numéros Will de Will & Co et Jérôme Kainborg, mon compère d'Upload et d'autres émissions. Et c'est une émission qui s'appelle Positron, qui est vraiment mon petit bébé que j'aime bien. C'est ma petite dernière émission. En fait, l'idée, c'est que on va vous recommander des produits culturels qu'on aime bien, parce que on se dit que il y a tellement de choses formidables qui se font aujourd'hui dans le monde qu'on n'a pas le droit de s'embêter. Et en l'occurrence, il y a des BD, des séries, des films, de la musique même, des choses que vous connaîtrez pas forcément et que vous pourrez découvrir comme ça, ou dont vous pourrez vous rappeler si vous les avez un petit peu oubliées. C'est une émission assez courte. Le premier fait 35 minutes, les suivants font font à peu près 25 minutes. Donc, c'est très dynamique, très punchy. Il y a un épisode toutes les deux semaines. Et puis, il y aura peut-être des petits épisodes entre, des positrons express que je ferai quand je voudrais parler d'un film plus spécifiquement. Mais je vous donne pas plus de détails. Je vous encourage à aller écouter Positron. Il est bien sûr sur iTunes, partout. Vous pouvez faire la recherche Positron, ça vous amènera là-bas. J'imagine, je dis ça, mais est-ce qu'il est déjà sur Google disponible?
Mais
non, peut-être pas encore.
J'adore ce logo, hein, il est vraiment magnifique. Je suis fan du logo du Positron. Bah, c'est Jérôme, je suppose.
C'est Jérôme, bien sûr, ouais, oui, sur une idée originale de Cédric Bonnet.
Ouais, il est beau.
Mais vous, je ferai un petit article sur le logo. Vous verrez là aussi le premier logo que j'ai fait. Il était tellement beau.
Tellement il se rapproche. Hein, il y a des éléments communs quand même.
Ouais, oui, c'est clair, carrément. Oui, tout à fait. Donc vous verrez ça. Hein, c'est vraiment sympa. Positron sur frenchspin.com. Je vous encourage à aller l'écouter. C'est une émission dont je suis très très fier. J'espère qu'elle vous plaira
c'est
aussi.
Chouette. Moi, j'ai préparé des sujets au cas où tu m'invites. Hein.
Ah bah t'es le prochain. Je t'avais pas dit.
Oui, et musique en plus.
Ah, tu vois, mais pas domaine. Que de la musique, hein.
Non. Mais d'accord. Là, c'est bon. Voilà, un petit truc qui me tient à cœur.
Je devrais enregistrer la prochaine session dans la première moitié d'août.
Mais très bien, je serai disponible.
Magnifique. Dernière chose, iTunes. Vous savez qu'iTunes c'est important pour nous permettre de rester haut dans les classements. Vous pouvez faire comme Arcaric qui nous dit très intéressant pour suivre l'actualité des technologies 5 étoiles. Le podcast est sympa et les différents interlocuteurs sont souvent adaptés, pas toujours, souvent adaptés aux différents sujets traités. Le dernier épisode sur Prism est vraiment très bien et Patrick a super bien expliqué cela. Merci beaucoup Arcaric. Vous pouvez aussi faire comme Bruno Litzelmann qui nous dit je vous écoute depuis longtemps du Québec, super, parfait, dit-il, là aussi 5 étoiles, merci à toi Bruno, visiblement puisque t'es au Québec, tu dois forcément connaître Yann, vous devez vous croiser dans la rue, non, vous connaissez tous, c'est ça ?
Forcément, c'est...
Exactement.
C'est un petit pays, hein.
Voilà. Et comme je le fais dans Positron, je vous encourage là pour le coup, je fais de la vraie cross promotion. Je vous encourage à aussi aller laisser des notes sur Positron, des notes positives si vous pouvez, si vous aimez l'émission.
Bah, c'est Positron. Bah, c'est obligé.
Bah oui, c'est ça. C'est Positron. C'est le bruit du Positron. Bah oui. Mais franchement, elle a été hyper bien reçue, l'émission, et puis on est monté dans les classements d'iTunes, qui, je sais, ne veulent rien dire parce que ça change tout le temps.
Non, mais j'adore, moi, ça. Mais en fait, non, mais tous les podcasteurs, mais ça m'a fait rire que tu fasses la remarque, parce que tous les podcasteurs qui se lancent disent « Oh, on est premier du classement iTunes !» c'est normal, ça. En fait, parce que au début, t'avais zéro, et donc si t'as mis l'abonné, t'as fait exactement. Plus l'infini. En abonné et donc forcément tu es
mais oui classement. Mais oui mais quand non, même mais ça fait plaisir truc. Quand même oui, non et en plus sûr. Et en plus je suis le premier à rire de cette mode bien sûr mais tu vois je suis comme je le disais dans la première émission j'étais tout nerveux c'était tout la positif. Première fois que je faisais depuis longtemps j'avais pas fait un nouveau podcast donc bref
c'est tout ça.
Voilà. Bref, on arrive à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. On va se quitter tout de suite et on se donne de toute façon rendez-vous, j'imagine, à moins qu'il se passe quelque chose. Ah non, je dis ça, mais le prochain, si c'est encore mi-juillet, ça devrait aller. C'est celui, le suivant, où je serai à peine sorti de mon mariage. Donc, je ne suis pas certain d'avoir le temps de faire un épisode. Mais
le mariage aussi.
Je pourrais annuler le mariage entre
on le fait en direct, tu sais. Ça
ouais, entre le l'épisode important du rendez-vous tech et l'annulation du mariage. Je suis quand même un podcasteur dédié à mon art. Hein, donc.
Attends, tu auras des podcasteurs à ton mariage, donc tu peux arriver à enregistrer un truc en loose day, tu vois.
Oui, discrètement.
Je
ne
pardonnerai jamais un truc. Le temps même pas.
Elle rigole là, mais je suis pas sûr qu'elle rit vraiment. Elle me dit, je t'ignore.
D'accord.
Bon, ok. Bref, on vous fait à tous de grosses bises et on vous donne rendez-vous donc dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
Ciao. Ciao.
Merci les gars.
Et est-ce que tu vas lancer la version, genre par exemple, t'as lancé Positron, donc pour les trucs positifs, est-ce que tu vas lancer...
Mégatron.
Non, est-ce que tu vas lancer Suppositron pour les trucs qui te font chier?